Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi. C'est votre grand journal du soir sur Europe 1, 2 heures d'information, d'analyse, de débat. Le journal dans un instant avec Sébastien Krebs qui me rejoint dans ce studio. On va bien sûr en parler dans cette édition. La majorité qui tente d'éteindre l'incendie après l'adoption contre sa volonté d'un amendement sur la reconnaissance d'enfants nés d'une GPA à l'étranger. Je reçois à 18h20 celui qui a mis le feu aux poudres, Jean-Louis Touraine, député La République En Marche. Il sera en direct. 19h30, votre grand journal se met en mode week-end. On va recevoir Christophe Girard. Vous savez, il est le maire adjoint à la culture à Paris. On va évoquer ensemble la polémique autour de la nouvelle œuvre de Jeff Koons. Elle a été présentée aujourd'hui. Il était là, l'artiste. La nuit blanche, demain également à Paris. On parlera cuisine japonaise avec le chef étoilé Guy Savoy. Et puis on écoutera Carmen. Allez, rien que ça. L'info qu'il vous faut, c'est votre grand Europe 1, et c'est jusqu'à 20h. Vous êtes sur Europe 1, il est 18h.
Tout le monde était triste, tout le monde pleurait, tout le monde était dévasté. Il y a des gens qui ont vu la scène en rentrant de sport, du coup, ça les a un peu choqués.
Bonsoir à tous, des coups de couteau en plein cours de sport. À la une ce soir, un lycéen de 15 ans qui meurt poignardé en s'interposant dans une bagarre. Ça s'est passé au Lille, à tout près de Paris.
Trois mineurs sont en garde à vue, nous allons sur place dans quelques secondes.
Nous ferons aussi le point sur l'enquête au lendemain de l'attaque à la préfecture de police de Paris. Ce soir, le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête.
À la une également, cette décision particulièrement importante à la Cour de cassation qui reconnaît la filiation de deux enfants nés par mère porteuse à l'étranger.
Et puis Emmanuel Macron au contact des éleveurs aujourd'hui. Vives échanges en Auvergne.
On est mal. On a l'impression d'empoisonner les gens au lieu de les nourrir.
Dans ce journal également, la convention pour le climat lancée avec 150 citoyens tirés au sort. Et puis les tulipes de Jeff Koons dévoilées à Paris. Une œuvre qui fait débat.
Non mais ça n'a rien à voir que de fleurs, hein. C'est soi-disant des tulipes, mais quand vous regardez, c'est... Enfin, excusez-moi, je trouve que c'est pas esthétique.
La bourse de Paris en nette hausse ce soir de 0,91% à 5488 points.
Et la météo du week-end avec vous, Valérie Darmon.
Oui, demain, une journée d'automne avec un ciel plus clément autour de la Méditerranée.
Europe 1.
C'est donc une bagarre qui a éclaté en plein cours de sport dans un stade municipal de la commune des Lilas en Seine-Saint-Denis. Une bagarre et à la fin, un lycéen de 15 ans poignardé sous les yeux de ses camarades. Il est mort peu après des suites de ses blessures. On va tout de suite aller sur place. Jean-Jacques Héry, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé ?
Eh bien que tout a démarré ce matin vers 11h30 dans l'enceinte d'un stade municipal proche de deux établissements scolaires, le collège Marie Curie et le lycée Paul Robert. Sur le terrain de sport, lycéens et collégiens se côtoient et ce matin, dans des circonstances encore très floues, deux groupes auraient commencé à s'invectiver. Cela aurait particulièrement dégénéré entre deux jeunes au point qu'un troisième se serait interposé pour protéger son ami. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait reçu un coup de couteau mortel. Alors immédiatement, les cours au sein du collège ont été suspendus, les parents invités à venir chercher leurs enfants, tous choqués comme Anna, élève de 4e.
C'était devant le collège et il y a tout le monde qui en a parlé, etc. Tout le monde était triste, tout le monde pleurait, tout le monde était dévasté. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu la scène en rentrant de sport, du coup ça les a un peu choqués. Je trouve que c'est triste parce que c'est un peu dramatique.
Ce soir, trois collégiens d'une quinzaine d'années ont été placés en garde à vue. Ils sont suspectés d'être les auteurs du meurtre. La victime, elle, n'était pas scolarisée au Lila, mais à Aubervilliers. Alors que faisait-elle ce matin sur le terrain de sport ? C'est une question à laquelle les enquêteurs devront répondre pour retracer le déroulé tragique des faits et comprendre pourquoi ce jeune lycéen n'avait rien à voir avec les deux établissements scolaires a été tué sur ce terrain de sport dans un conflit qui semble trouver sa source dans une banale et triste rivalité entre quartier à laquelle il était a priori totalement étranger.
Jean-Jacques Héry au Lila pour Europe 1. L'émotion également, Sébastien, aujourd'hui encore à la préfecture de police de Paris. L'ensemble des personnels rassemblés ce matin pour une minute de silence.
Oui, hommage aux quatre fonctionnaires tués hier après-midi par l'un de leurs collègues dans l'attaque au couteau. On va faire le point sur l'enquête à présent parce qu'elle évolue. Bonsoir Guillaume Bier.
Bonsoir.
On sait ce soir que la garde à vue de sa femme est prolongée.
Oui, elle est toujours interrogée par les policiers de la brigade criminelle. Le parquet a prolongé sa garde à vue pour 24 heures supplémentaires. Mais surtout, ce soir, le parquet national antiterroriste récupère la procédure. Et cette femme qui est donc toujours interrogée par les enquêteurs, c'est peut-être elle la clé. C'est elle qui pourrait apporter des explications sur le mobile de cette tuerie. Une femme musulmane qui s'est mariée avec le tueur il y a 5 ans, en 2014. Et il y a 2 ans environ, son mari s'est converti à l'islam. Mais jusqu'à présent, sa radicalisation n'était jamais apparue. Lors de ses premiers interrogatoires, son épouse a raconté aux enquêteurs que son mari aurait fait une crise de démence la nuit précédant le drame. Malgré tout, hier matin, il est venu travailler normalement toute la matinée. Il a assuré la maintenance informatique sans éveiller de soupçons particuliers jusqu'à son attaque meurtrière. Son profil psychologique est évidemment examiné. On nous le décrit comme un homme réservé, taciturne, qui n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte ni de difficulté comportementale. C'est ce qu'affirmait dès hier le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Ce soir, c'est désormais une enquête qui est menée par la justice et par les enquêteurs antiterroristes.
Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1.
Et il s'est invité par surprise au sommet de l'élevage. Emmanuel Macron est allé au contact aujourd'hui du monde agricole à Cournon-d'Auvergne.
Ouais, le déplacement n'était pas prévu à l'agenda dans ce rendez-vous qui est le plus important d'Europe pour les éleveurs. On sait les exploitants agricoles remontés en ce moment sur les traités de libre-échange, la concurrence étrangère. Adrien Beck, vous avez suivi le président qui est resté plusieurs heures et qui a eu de longs échanges francs et assez directs avec les éleveurs.
Oui, et le rapide crochet par ce sommet s'est transformé en visite fleuve. 7 heures sur place au total, 7 heures entre les Aubrac et les Charolaises face à des agriculteurs très remontés, très inquiets aussi, comme Sandrine, éleveuse dans la Loire.
Bonjour,
on est mal. Pour donner envie de manger de la viande.
Exactement. Là, on va aider là, sur la sécheresse, mais c'est le modèle économique.
Non, mais c'est le matraquage qui est dur tous les jours,
Mais il est dur en plus parce que vous ne vivez pas bien.
Parce qu'on a l'impression d'empoisonner les gens au lieu de les nourrir.
Avec cette visite de dernière minute, pas prévue à son agenda, Emmanuel Macron en a profité aussi pour sermonner les agriculteurs, ceux qui ont chahuté hier 2 députés de La République En Marche en raison de leur vote sur le CETA. Violence inacceptable, a dit le président, mais je serai à vos côtés, a-t-il plus tard tempéré. Un Emmanuel Macron qui, ces jours-ci, se démultiplie sur le terrain, hier soir sur les retraites, ce matin avec les agriculteurs et ce soir pour un débat sur la presse ici à Clermont-Ferrand pour les 100 ans du journal La Montagne.
Adrien Beck dans le Puy-de-Dôme pour Europe 1, Emmanuel Macron qui par ailleurs a promis qu'il irait à Rouen et assuré qu'il suivait de près le dossier Lubrizol.
Alors on est sur place justement où les agriculteurs ont reçu, Sébastien, les premiers résultats des analyses menées sur les produits alimentaires.
Et ces premiers éléments sont rassurants même s'ils ne sont pas encore tout à fait complets. On va rejoindre Élise Dangean qui se trouve sur place. Non. On n'a pas Élise Dangean, par contre on peut écouter peut-être le président de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, Arnold Puech-Dalissac.
Ce que l'administration nous a communiqué, c'est que les résultats d'analyse sont satisfaisants, qu'il n'y a rien d'inquiétant dans ce qu'ils ont cherché dans un premier temps. Au vu des produits qui ont brûlé dans l'usine, ils cherchent les dérivés de ces produits maintenant et on n'aura pas de résultats là-dessus avant le 11 octobre. Bon, ce qui est très contraignant pour les agriculteurs, puisque certains doivent acheter de la nourriture chez leurs voisins ou plus loin pour nourrir leurs animaux, puisque les récoltes sont consignées et ne peuvent pas être données aux animaux. Tout ce qui avait été stocké avant, il n'y a pas de problème, mais tout ce qu'on a fait depuis le 26 est consigné. On l'accepte, mais moralement, on est toujours dans l'inquiétude, même si on est fortement rassuré par les premières analyses qui sont sorties.
Un propos recueilli par Rémi Bottes-Saron pour Europe 1.
À suivre dans votre journal de 18h, alors que les anti-PMA se préparent à manifester. Une décision importante de la Cour de cassation à la mi-journée. Décision qui reconnaît désormais la filiation d'un enfant né par mère porteuse à l'étranger. En tout cas, dans un cas bien précis.
Ouais, la grande consultation sur le climat également. Et puis les tulipes de la Discord, d'une œuvre de Jeff Koons qui fait débat, dévoilée en plein Paris.
Et oui, on va y revenir. C'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, votre grand journal du soir, et la suite avec vous Sébastien Krebs. Au moment où les anti-PMA se préparent dimanche à une nouvelle mobilisation, voilà une décision judiciaire qui va forcément faire réagir.
Ouais, c'était une décision très attendue, une décision de la Cour de cassation qui concerne des enfants nés par GPA, par mère porteuse aux États-Unis. Un combat judiciaire qui a duré près de 20 ans pour les parents de 2 jumelles, le couple Ménesson, et au final une décision qui leur est extrêmement favorable. Virginie Riva, on va la décrypter ensemble. La Cour reconnaît en fait le lien de filiation de ces enfants avec leur mère, qu'on appelle leur mère d'intention, parce qu'elle n'est pas la mère biologique.
Exactement, sans que Madame Ménesson doive passer par l'adoption. Monsieur Ménesson, qui est le père biologique, lui, était déjà reconnu comme père. Un combat très long, vous le disiez, plus de 20 juridictions sont intervenues et un soulagement exprimé par le père.
Nos enfants ne sont plus des fantômes, ce sont nos enfants légalement parlant. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Alors, on est aussi content parce que ça va aider beaucoup d'autres familles. Et je pense qu'elles sont nombreuses dans notre cas grâce à cette décision.
Virginie, est-ce que cela veut dire que ce principe va s'appliquer à tous les enfants nés par GPA à l'étranger ?
Non, contrairement à ce que dit M. Menson, il faut bien comprendre que cette décision est certes une première, mais elle ne vaut que dans ce cas-là, la Cour le précise bien. Mais le gouvernement attendait cette décision pour clarifier l'état du droit de ces enfants nés à l'étranger de mère porteuse. C'est une promesse du candidat Macron, tout faire pour que ces enfants ne soient pas des fantômes. Une circulaire va être publiée dans les jours qui viennent avec un rappel de ce qui se fait déjà, à savoir la reconnaissance du père biologique reconnu de facto comme père et l'obligation pour le conjoint d'adopter. L'idée, c'est de supprimer la marge d'appréciation qui existe aujourd'hui dans certains tribunaux qui retardent les procédures, et ce, afin que les droits soient les mêmes pour tous.
Et on va en reparler, merci beaucoup Virginie Riva, on va en reparler de ce débat juste après le journal avec Jean-Louis Touraine, mon invité, médecin, député La République En Marche du Rhône. C'est lui qui a proposé cet amendement qui fait réagir, c'était cette nuit.
Oui, parce que pour le gouvernement, on parlait de ces éléments sur la GPA. Pour le gouvernement, pas question que ces éléments soient traités dans la loi qui concerne la PMA et qui est débattue en ce moment. Le gouvernement qui va demander donc une nouvelle délibération sur cet amendement dont
mercredi
vous parlez,
prochain,
qui a été voté contre son avis la nuit dernière. C'est une promesse qui a été faite pour répondre à la crise des gilets jaunes, mieux associer les citoyens aux décisions et notamment sur les questions d'environnement. C'est donc une toute nouvelle instance qui est née aujourd'hui, la Convention citoyenne pour le climat.
Ils sont 150 Français tirés au sort. Ils sont chargés de proposer des mesures, travaux lancés cet après-midi même par le Premier ministre Édouard Philippe.
Vous avez été tirés au sort pour porter un regard neuf et peut-être différent, avec le moins de biais possible, mais il y en aura forcément, sur ces questions qui nous occupent et qui parfois nous divisent. Vous allez avoir toute l'attitude pour réfléchir et pour agir. Vous n'entendrez presque plus parler le gouvernement et peut-être presque plus parler du gouvernement au fur et à mesure que vous travaillerez.
Le Premier ministre avec Claudia Bertram qu'on va rejoindre au Conseil économique et social. Claudia, ils ont 4 mois, ces citoyens, pour réfléchir et leurs débats ne font que commencer.
Oui, Sébastien, 150 citoyens les plus représentatifs possibles de la société. Une sorte de France en miniature. Et pour Tristan, qui fait partie des 13% d'étudiants et qui est originaire de La Réunion, c'est une grande responsabilité.
Parmi les millions de Français qui auraient pu être choisis, ben c'est nous qui avons été choisis, donc on a un peu une responsabilité. Si on fait pas bien les choses, on le fera pas bien pour eux aussi.
Durant 6 week-ends, ces citoyens se pencheront sur la question du réchauffement climatique. Ils aborderont notamment le sujet sensible de la fiscalité du carburant, à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Marie-Josée, elle, fait partie des 27% de retraités et elle l'admet, elle n'y connaît pas grand-chose et doute de la légitimité de cette convention.
Sincèrement, je suis un peu sceptique. Hein. Certains y connaissent peut-être quelque chose, mais des gens comme moi, bon, on est respectueux, ça s'arrête là. Je ne devrais pas le dire, mais est-ce qu'on ne va pas être téléguidé un petit peu pour faire des propositions ?
Scepticisme aussi sur la capacité à peser politiquement. Fin janvier, les citoyens devront formuler des propositions sous forme de règlement de loi ou même de référendum. Le gouvernement pourra ou non en tenir compte, mais devra y répondre publiquement.
Claudia Bertram au Conseil économique et social pour Europe 1. C'est terminé pour XL Airways. On s'y attendait. Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé aujourd'hui la liquidation de la compagnie aérienne. 570 salariés devront être licenciés. On y reviendra dans le journal de 19h.
C'est un bouquet de tulipes qui a fait beaucoup parler ces dernières années. Une œuvre d'art signée Jeff Koons.
Oui, un bouquet de tulipes coloré, tenu dans une main inspirée de celle de la Statue de la Liberté. Bonsoir Diane Chénouda.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Vous l'avez vu, cette œuvre qui a été dévoilée aujourd'hui au offerte par l'artiste et dévoilée donc près des Champs-Élysées, alors après des années de polémiques.
Oui, ça a été le bouquet, hein, si j'ose dire, ce bouquet de tulipes de Jeff Koons. Ses détracteurs dénonçaient le coup de pub d'un businessman plus que le geste d'un artiste. Alors c'est pour cela qu'un lieu plus discret que le Trocadéro a été trouvé dans ce jardin des Champs-Élysées. C'est là que Jeff Koons a dévoilé sa sculpture assez impressionnante, cette main tendue qui offre un bouquet de tulipes multicolores en hommage aux victimes des attentats de Paris et de Nice. Écoutez Jeff Koons.
Le bouquet de tulipes est une référence à la Statue de la Liberté qui tient la torche. L'œuvre dialogue aussi avec le bouquet de l'amitié de Picasso et sa sculpture de la femme au vase. On retrouve l'acte d'offrir.
Alors les Parisiens, les passants, les badauds que j'ai rencontrés sont assez partagés.
Faut aimer les couleurs.
Alors moi je trouve ça magnifique, génial. Et je trouve ça super d'avoir mis des fleurs, comme ça c'est plein d'espoir. C'est très coloré, une main très réaliste et en même temps des fleurs très pop.
Non mais ça n'a rien à bouquet de fleurs. Hein. C'est soi-disant des tulipes, mais quand vous regardez, c'est... Enfin, excusez-moi, je trouve que c'est pas esthétique.
C'est un petit peu incongru là au milieu, mais enfin, voilà, c'est gai, c'est joyeux, donc pourquoi pas.
Il faudra sans doute laisser du temps au temps pour faire accepter ce cadeau de Jeff Koons à Paris. L'œuvre a été financée par des mécènes français et américains et l'artiste renonce aux bénéfices sur les produits dérivés qui iront pour 20% à la ville et pour 80% aux associations de victimes.
Voilà, ça fait parler en tout cas.
Ouais, ça fait parler. Bon, si c'est belle bête, hein, 12 mètres de haut, 8 oui. mètres de large. Hein,
c'est, déjà très grand, c'est impressionnant.
Imposant. Oui. On va vous retrouver, oui, Diane, tout à l'heure à 19h30. Christophe Girard sera mon invité. Il est maire adjoint à la culture à Paris. On parlera de cette œuvre et puis de la Nuit Blanche aussi. Ce week-end.
Bien sûr, il y a deux événements, oui.
L'actu du foot, pour terminer, après des semaines de psychodrame, Claude Puel est confirmé ce soir comme manager général et entraîneur à Saint-Étienne. Ghislain Printemps, qui était l'entraîneur, est suspendu. Ce soir, début de la 9e journée de Ligue 1 avec Marseille qui se déplace à Amiens, coup d'envoi 20h45.
L'Olympique Marseillais qui n'avance plus qu'au ralenti. Il va falloir jouer serré ce soir. Sébastien, retour à 18h30 avec vous pour l'info en direct. La météo avec vous, Valérie Darmon. Samedi nuageux et pluvieux, c'est ça?
Oui, sur les deux tiers nord. Voilà. Comme souvent, sur le Roussillon, le Languedoc, la région PACA, la journée se déroule sous un ciel dégagé ou à peine voilé par moments de nuages d'altitude partout ailleurs. De la Bretagne vers les pays de la Loire, du Poitou au Limousin, sur le massif central, le nord des Alpes, le ciel est chargé. Un petit peu pluvieux, davantage d'ailleurs au nord, de la Haute-Normandie au bassin parisien, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace, ainsi que le nord des Alpes, où il va un petit peu neiger aussi, au-delà de 2100 mètres. Et sur l'Aquitaine et Midi-Toulousain, le ciel qui est variable, alternant entre belles éclaircies et passages nuageux. Et les températures, tout de même, elles restent douces.
Bon. Europe 1. Dans un instant, la suite de votre grand journal du soir. La GPA est apparue dans le débat sur la loi de bioéthique, c'était la nuit dernière. Coup de colère de la droite et des macronistes. Dans deux minutes, je reçois Jean-Louis Touraine, c'est lui qui a mis le feu aux poudres avec cet amendement. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 18h20, votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h. Contre l'avis du gouvernement, un amendement a été voté la nuit dernière. Amendement qui reconnaît la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger, et cela à deux jours de la manif pour tous. L'auteur de cet amendement est sur Europe 1 ce soir. Bonsoir Jean-Louis Touraine.
Bonsoir.
Merci de nous répondre ce soir en direct. Vous êtes député La République En Marche, vous êtes médecin, rapporteur de la loi bioéthique. Hier soir, l'hémicycle était quasiment clairsemé. Vous êtes parvenu à faire adopter votre amendement. Ce texte que vous avez réussi à passer en force contre l'avis du gouvernement?
Non, pas en force. Il y avait tous les députés qui ont suivi les auditions préparant cette loi de bioéthique.
Et 13 donc, députés de la majorité.
Oui, plus tous ceux de l'opposition, donc un peu plus d'une trentaine de députés qui, globalement, d'ailleurs, ont des opinions diverses à l'intérieur de chaque groupe politique. Et la question qui était posée hier n'était pas du tout liée à la GPA, qui reste prohibée en France, et il n'est pas question de revenir sur cette interdiction. C'était simplement la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger.
Sauf que les députés républicains crient à la trahison. Eux, ils voient l'amalgame, ils dénoncent un projet caché de la majorité. Ils disent qu'on vous a envoyé au front. Qu'est-ce que vous leur répondez, Jean-Louis Touraine ?
Certains des députés républicains, d'autres au contraire, m'ont envoyé des mots de remerciements et de félicitations pour... protéger les enfants nés de GPA qui ne doivent pas être considérés comme les parias, comme des citoyens de deuxième zone qui n'ont pas les mêmes droits que les autres. Vous savez, être enfant ne suppose pas qu'on ait choisi son mode de conception. Et que les enfants soient nés de PMA, de GPA ou dans des conditions plus habituelles, dans tous les cas de figure, tous les enfants méritent d'avoir la plénitude de leurs droits. Et ce que je dis n'est rien d'autre que ce qu'a dit le président de la République dans sa campagne électorale et qu'il a repris depuis son élection. C'est ce que dit le défenseur des droits, c'est ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce que dit aussi la Cour de cassation. Nous ne pouvons pas rester en France à amoindrir les droits de certains enfants sous le prétexte que nous n'approuvons pas le comportement de leurs parents. Les enfants n'ont pas à être sanctionnés pour cela, n'ont pas à subir les conséquences d'un choix qui ne leur appartient pas. Donc nous avons le devoir, tout simplement, d'octroyer la plénitude des droits. Et le premier des droits pour un enfant, c'est d'avoir son père et sa mère
être
reconnus.
Mais Jean-Louis Touraine, vous avez vu la réaction de l'exécutif qui a annoncé aussitôt une deuxième délibération mercredi. Vous savez très bien finalement qu'hier soir c'était un coup de couteau dans l'eau. Ce sera retoqué votre amendement mercredi prochain.
Nous verrons ce qu'il adviendra. Je pense que à la réflexion, ceux qui aujourd'hui veulent... revenir sur ce vote prendront le temps de la réflexion, parce que quand on progresse vers une amélioration de la justice et des droits, surtout pour des enfants, il n'est pas facile de suggérer qu'on va faire voter contre les droits de l'enfant. Vous m'accorderez que cette évolution est irréversible. Elle est en plus cautionnée par la Cour de cassation. La Cour de cassation avait d'ailleurs précédemment indiqué que c'est au législateur de prendre cette décision, parce que ce ne sont plus les cours de justice qui doivent se substituer à la fabrication de la loi. La loi doit être faite par le Parlement. La justice est là pour appliquer la loi que les parlementaires ont voté. Donc nous sommes dans notre rôle, ce n'est ni au gouvernement, ni à la justice de faire la loi, c'est le Parlement. Vous connaissez la séparation des pouvoirs,
bien sûr, Jean-Louis Tourelle.
Depuis Montesquieu existe dans notre pays. Donc le Parlement a développé son action, et la majorité des députés, je vous dis, répartis dans tous les groupes politiques, a considéré que les droits de l'enfant étaient prioritaires.
Mais pas la majorité des députés marcheurs, Jean-Louis Touraine. Vous avez vu la réaction. Vous avez entendu. Vous avez entendu Aurore Berger ce matin. Vous avez entendu la garde des Sceaux.
Je parle de la majorité. Je ne parle pas de chacun d'eux individuellement.
J'entends bien. Mais elle est porte-parole des marcheurs.
La garde des Sceaux a été extrêmement digne pendant toutes les discussions à l'Assemblée nationale. Elle a eu un rôle que je veux saluer et lui rendre hommage, pour notamment faire reconnaître les filiations dans la PMA. Pour toutes. Elle a fait un travail remarquable et elle mérite vraiment d'être remerciée. Elle s'était arrêtée à cette filiation pour les enfants nés de PMA, tel que cela se réalise régulièrement en France. Et maintenant, il s'agit de compléter cela par la filiation pour les enfants qui sont nés d'une GPA à l'étranger et qui méritent d'être reconnus enfants de tel père et de telle mère, comme ils le sont dans le pays où ils sont nés.
Jean-Louis Touraine, avec ce vote hier soir sur la reconnaissance de la filiation des enfants nés par mère porteuse à l'étranger, est-ce que vous ne craignez pas d'avoir mis de l'huile sur le feu et de remobiliser ceux qui vont être dans la rue dimanche pour s'opposer globalement au texte?
Pas du tout.
Ça leur fait un motif de manifester mobilisés. Supplémentaire.
Pas du tout. Ils étaient déjà mobilisés depuis le début de la discussion. La loi, chaque fois qu'on parle de PMA pour toutes, chaque fois ils disent ce n'est qu'un tremplin vers la GPA. Depuis le début, donc cette dénonciation de la GPA, ils n'attendent pas qu'il y ait un amendement pour protéger les enfants, et ça n'a rien à voir avec la GPA. Nous ne parlons pas de GPA, nous parlons des enfants. Donc ce qui les a le plus inquiétés, c'est le fait de l'extension de la PMA à toutes les femmes, parce qu'ils prétendent que cela est un tremplin vers le développement de la GPA pour les couples homosexuels masculins. C'est un tort de leur part.
Mais pour dimanche, vous ne craignez pas cette nouvelle mobilisation?
Non, je ne la crains pas. Je considère qu'elle est normale. Il est légitime que des gens qui ont un point de vue divers aillent le dire en toute démocratie, dans la rue. Et c'est parfait. Il n'y a que deux choses que je leur demande. D'une part, de ne pas accompagner, de ne pas se faire accompagner par leurs enfants, parce qu'ils ne savent pas, parmi leurs enfants, lesquels, 1 sur 10 peut-être, n'aura pas l'orientation sexuelle qu'ils souhaitent, et demain, eh bien, sera en couple peut-être homosexuel. Donc il ne faut pas qu'ils diabolisent cela, et il ne faut pas qu'ils refusent d'aimer leurs enfants, même si ils ont une orientation sexuelle. Et puis il faut qu'ils se, parmi eux, parmi ceux qui sont dans la rue, quelques-uns sont des croyants. Et je leur rappelle la très belle sentence qui dit que ce que l'on fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais, c'est-à-dire qu'on a le devoir de protéger d'abord le plus vulnérable, le plus petit. Qui est plus petit qu'un nourrisson qui est né dans une famille, que ce soit par GPA, par PMA ou par des conditions plus habituelles?
Dernière question, fondamentalement, est-ce que vous espérez, vous, au fond, la GPA pour tous, demain, dans 5 ans, en France?
Pas du tout. Je suis absolument contre toute marchandisation. Je suis radicalement contre, viscéralement contre. J'ai un immense respect pour les femmes et je pense que marchandiser le corps de la femme n'est pas acceptable.
Jean-Louis Touraine, merci d'avoir répondu ce soir à nos questions en direct sur Europe 1. Merci beaucoup.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, le rappel des titres. Sébastien Krebs va s'installer dans ce studio. Et puis, les grandes voix, on va revenir sur cette information ce soir après cette tuerie à la préfecture de police de Paris. Le parquet antiterroriste est saisi ce soir. La garde à vue de l'épouse de l'assaillant est prolongée. On y revient dans une petite seconde. Il est 18h30 sur Europe 1, l'heure de votre grand journal du soir. Le rappel des titres avec vous, Sébastien Krebs.
Un tournant dans l'enquête sur l'attaque au couteau commise hier à la préfecture de police de Paris. L'enquête est désormais confiée au parquet antiterroriste, ce qui contredit le scénario d'un coup de folie évoqué par la femme de l'assaillant, dont la garde à vue est prolongée ce soir. On y revient en détail dans le journal de 19h. Un lycéen de 15 ans poignardé en plein cours de sport. Il est mort des suites de ses blessures. Ça s'est passé au Lila, en Seine-Saint-Denis. Il semble qu'il se soit interposé lors d'une bagarre entre deux groupes rivaux. Un combat judiciaire de près de 20 ans, la Cour de cassation reconnaît la filiation de deux filles nées par mère porteuse aux États-Unis. Mais les magistrats précisent que cette décision ne sera pas applicable à tous les enfants nés par GPA. C'est fini pour XL Airways, la compagnie est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. Décision synonyme de licenciement pour 570 salariés. Les mondiaux d'athlétisme et une revenante en finale du disque ce soir. Mélina Robert Michon, 40 ans, est toujours au plus haut niveau. La vice-championne olympique de 2016 va tenter d'accrocher une nouvelle médaille ce soir. Nous irons à Doha dans le journal de 19h.
Avec vous Sébastien Krebs, de retour en direct bien sûr.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Valérie Darmon pour la tendance météo de ce week-end.
Eh oui, alors demain, le thermomètre affichera le matin 9 à 13 degrés en général et maximal 14 à 16 sur l'est de la France, 16 à 18 le long des côtes de la Manche, 18 à 22 sur le reste du pays et 22 à 24 autour de la Grande Bleue. Côté ciel, ces pluies et nuages, de l'estuaire de la Gironde à la région de Lille, du Nord-Pas-de-Calais vers les Ardennes, les éclaircies tenteront de percer en cours de journée, ces éclaircies qui gagneront les frontières de l'est dans l'après-midi. Le vent est soutenu en Méditerranée, Mistral et Tramontane souffle en rafale jusqu'à 70 km/h. Et c'est ce vent qui dégage votre ciel du Roussillon aux Alpes-Maritimes.
Europe 1.
Dans votre grand journal du soir, l'heure de votre rendez-vous avec les grandes voix jusqu'à 19h, j'accueille autour de cette table dans ce studio Alain Accaud. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service police-justice d'Europe 1. On vous retrouve ce soir notamment parce que ça évolue sur la tuerie à la préfecture de police de Paris. On va y venir dans un petit instant. Bonsoir Charles Villeneuve, bienvenue. Bonsoir. Et Laetitia Krupa est avec nous également. Bonsoir à vous, spécialiste Bonsoir. Communication politique. Et vous, auditeurs, pouvez nous contacter au 39-21. Bien entendu, Alain Accaud, je vais vous donner la parole en premier ce soir parce que on sait depuis quelques instants maintenant, s'agissant de cette tuerie hier à la préfecture de police de Paris, que le parquet national antiterroriste a été saisi.
En fait, c'est le parquet national antiterroriste qui s'est auto-saisi
même.
Puisque c'est lui qui a la main quand il estime ou quand on estime, et en coordination avec le parquet de Paris, que les éléments recueillis sont susceptibles de faire basculer cette enquête sous le prisme de la lutte antiterroriste. Qu'est-ce qui a fait basculer qu'est-ce qui a motivé ce choix après discussion? C'est très clairement les auditions des proches et notamment de l'épouse de l'auteur de cette tuerie, dont la garde à vue a été prolongée en début d'après-midi. C'est elle qui a éclairé, semble-t-il, suffisamment les enquêteurs dans ce sens. On savait qu'elle avait évoqué une forme de nuit très agitée, qu'elle avait entendu
etc., des visions de son époux. Ouais.
Exactement. Et puis c'est également, et ça c'est plus probant, semble-t-il, l'examen de son téléphone. Et tout ce qu'on sait à l'heure où je vous parle, c'est qu'il ne s'agit pas d'appels téléphoniques vers la Syrie, par exemple, ou la Libye. Il ne s'agirait pas non plus de consultations de sites djihadistes. Mais il y avait des éléments dans le téléphone portable qui est toujours en cours d'exploitation, ce qui laisse penser qu'il y a peut-être des applications cryptées qui n'ont pas encore été examinées par les services. Ce sont ces premiers éléments-là qui ont permis au parquet national antiterroriste de se saisir.
Donc l'exploitation du téléphone de l'assaillant, nous dites-vous, et les premières auditions, donc notamment de son épouse Alain Accaud. Je reviens quand même sur le parcours de ce couple. Lui s'est converti à l'islam il y a 2 ans, c'est ce qu'on apprenait hier. Son épouse elle-même est musulmane.
Originaire d'Afrique du Nord, lui il est antillais. Qui travaille à la préfecture de police depuis 2003. Il ne s'est jamais fait remarquer à aucun moment. Pour rentrer dans la préfecture de police, il a effectivement été soumis à un criblage à l'époque. Ce criblage n'a pas été renouvelé car à aucun moment, ça nous a été confirmé officiellement, à aucun moment il ne s'est fait remarquer et n'a attiré la moindre suspicion sur son comportement et sur une éventuelle dérive religieuse.
La qualification donc de l'enquête modifiée ce soir, Charles Villeneuve également, Laetitia Krupa qui est avec nous. Hier soir, on a vu très vite après les faits, après le drame, sur place, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, rejoint ensuite par Emmanuel Macron, Édouard Philippe et puis bien sûr le préfet l'allemand, tous qui ont été assez, j'allais dire, clairs a priori, sur les motivations de l'assaillant. Et ce soir, on voit bien que cela évolue.
Oui, mais de toute façon, il faut toujours attendre. Moi, je trouve que c'est une mesure de prudence dont ne respecte souvent pas les ministres de l'Intérieur précédents. On a largement des exemples, on ne va pas tous les énumérer. Mais il suffit d'attendre, d'ailleurs, hier soir, à 23h, dans les journaux de 23h, 23h30, on voyait encore le camion du laboratoire central de la police scientifique qui était sur place, à Gonesse. L'identité judiciaire n'avait pas fini son travail. Les officiers de la brigade criminelle étaient toujours en cours de perquisition, ce qui voulait bien dire que non seulement il faut attendre de toute façon les résultats et les éléments de l'enquête pour pouvoir statuer. Il est vraisemblable que, comme vient de nous le dire... que ces éléments ont dû surgir soit dans la nuit, soit dans la journée, dans la matinée. Et c'est à partir de là qu'après échange entre le parquet de Paris et le parquet antiterroriste, finalement, c'est ce dernier qui s'est auto-saisi en quelque sorte de l'affaire, avec une double charge d'ailleurs, hein, puisqu'il y a, je crois qu'Alain l'a dit et on peut le répéter, qualification d'assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, ce sont les agents qui l'ont assassiné, en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. C'est assez lourd comme charge. Alors maintenant, évidemment, il faudra détailler, on verra tous les éléments constitutifs.
Laetitia Crepa, la lecture, là, aux premières heures, on est évidemment très prudent parce qu'il ne s'agit pas, évidemment, d'aller trop vite en besogne dans dossier aussi sensible.
Alors certaines sources, certains médias avancent qu'il y aurait eu des grosses tensions entre l'exécutif et le parquet parce que justement le pouvoir ne voulait pas faire peur avant l'ouverture du débat à l'Assemblée sur l'immigration. Donc voilà, il voulait éviter la confusion, il voulait éviter les amalgames dont on a l'habitude sur ce genre de sujet, c'est un peu raté. Voilà, c'est toujours ce problème, c'est-à-dire qu'à vouloir trop parer la polémique, parfois on en déclenche une. Et d'ailleurs, il y a 20 minutes, Marine Le Pen a tweeté, donc dans la foulée de l'annonce de l'autosaisine du parquet, elle a tweeté « Si la dimension terroriste se confirme, ça signifie que dans un des hauts lieux du renseignement français, il accueillait en son sein un islamiste. Ce serait un scandale majeur. Donc voilà, bon, on est dans la récupération politique immédiate.
Comme d'habitude. On va s'en parler dans un petit instant. Restez avec nous et les auditeurs, nous contactent également. On vous donne toutes les dernières informations sur ce dossier au sujet de la préfecture de police de Paris, le parquet national antiterroriste saisi désormais. Europe 1, votre grand journal du soir jusqu'à 20h en direct avec les grandes voix ce soir. Laetitia Crepa, spécialiste communication politique, Charles Villeneuve et Alain Accot qui est avec nous, bien entendu, chef du service police-justice d'Europe 1, parce que les choses évoluent s'agissant de ce drame hier à la préfecture de police de Paris. On sait désormais ce soir que le parquet national antiterroriste s'est saisi compte tenu de l'évolution de la situation, notamment, Alain Accot, vous nous le disiez, de la prolongation de la garde à vue de l'épouse de l'assaillant, donc ce qui a pu être dit, et également l'exploitation du téléphone. On va rappeler les faits pour les auditeurs qui nous rejoignent, l'exploitation du téléphone de l'assaillant.
Oui, et ça, et l'un va peut-être avec l'autre, c'est-à-dire qu'il peut aussi avoir échangé avec son épouse, et les traces qui ont été laissées sur son téléphone et les propos qu'elle a peut-être pu rapporter ont nourri la réflexion des enquêteurs et des magistrats, et les ont peut-être poussés à changer d'avis et à suspecter désormais une action terroriste. À ce stade, en tout cas, il n'y a ni revendication de sa part, aucun élément probant n'avait été découvert hier d'une manière évidente chez lui, aucune propagande, aucun slogan, aucune lettre de revendication. Ce n'était peut-être pas un coup de folie comme certains ont pu le dire, dans le sens où il était venu à la préfecture de police avec un couteau de cuisine d'une trentaine de centimètres en céramique. Donc, comme le disait Charles Villeneuve, ça montre bien qu'il y avait une préméditation. Après, l'aspect terroriste, on verra bien s'il est confirmé. En tout cas, aujourd'hui, les services enquêteurs se donnent la possibilité, en saisissant à la fois la section antiterroriste de la brigade criminelle, la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la PJ et la DGSI, elles se donnent les moyens de travailler très largement autour de cet individu.
Mais il y a un terme dans les qualifications qui montre bien que c'est la préméditation qui a été retenue, c'est le terme d'assassinat. Sinon, on aurait vu le terme de meurtre.
On est avec Antoine, depuis Toulon, en direct sur Europe 1. Bonsoir Antoine.
Bonsoir à tous et à toutes.
On voit bien que 24 heures après les faits, les choses évoluent, le parquet terroriste anti-saisi. Quelle est votre lecture ce soir des événements ?
Alors, moi, la lecture que j'en fais, c'est une très grande inquiétude. Une très grande inquiétude, parce que déjà hier, j'ai appris ce qui s'est passé, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec une action terroriste. Pour moi, c'était évident, quoi. Après, quand on a commencé à dire on pense pas, etc., etc., j'étais très étonné. Et là, maintenant, vu la tournure des événements, j'ai bien peur qu'on ait quelqu'un placé au cœur du système qui ait pu être touché par la radicalisation. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a une efficacité dans la prise de contact de personnes qui sont placées à des endroits stratégiques où, en plein cœur du système, on peut frapper. Donc moi, mon sentiment, c'est l'inquiétude.
L'inquiétude ce soir, donc, dont vous nous faites part, Antoine, depuis Toulon, merci de votre appel. L'inquiétude, effectivement, au sein de la préfecture, parce qu'on a vu aussi beaucoup hier des collègues de l'assaillant, Michael, Alain Accot, Laetitia Krupa, Charles Villeneuve, qui aussi nous faisaient part, ici même dans ce studio, de leur inquiétude compte tenu de la possibilité d'entrer dans le système, d'entrer physiquement dans les lieux et d'être dans le système, d'être
ce
de l'intérieur.
C'est effectivement problème, un service de renseignement qui ne parvient pas à anticiper un passage à l'acte en son sein. Bien sûr, sur ce fait que l'exécutif, que la préfecture, que tout le monde va devoir répondre. C'est ce qui fait peur aux Français, c'est ce qui fait dire à notre auditeur « j'étais sûr que c'était un acte terroriste ». Non, c'était impossible de le savoir hier, mais c'est évidemment cette angoisse dans la mémoire collective qui vient tout de suite.
Charles. Non, mais ce qui frappe, c'est parce que ce quintuple meurtre, puisqu'il y a 5 victimes maintenant, a été commis...
Dont l'assaillant, être exact,
oui.
Charles.
Oui, et a été commis, si vous voulez, dans un lieu de pouvoir symbolique au cœur du système du pouvoir policier de la préfecture de police de Paris. Il faut bien préciser que c'est Paris, la préfecture. Quand je parle de pouvoir policier, c'est celui de Paris dans une place forte qui est la préfecture de police, dont certains veulent démanteler d'ailleurs même au plus haut niveau du pouvoir, parce que justement c'est un pouvoir très, très affirmé, très important, très puissant. Mais en même temps, je crois qu'on a passé au peigne fin, et le service compétent d'Europe 1 l'a bien expliqué, je trouve, c'est que le personnel lui-même n'est pas soumis à une fouille. Et il n'est pas soumis non plus au passage du portique.
C'est ça, avec
c'est
le
public,
badge, on entre.
Nous, les journalistes, nous sommes soumis, si vous voulez, comme dans les circonstances d'aller prendre un avion, évidemment, on se déleste de tout ce qui est métallique, etc. Là, ce n'est pas le cas parce qu'il appartenait à la direction du renseignement de la préfecture de police. C'était un administratif, ce n'était pas un homme du service d'action, en quelque sorte, il n'allait pas sur le terrain. Bon, et ça peut arriver, si vous voulez. Je crois que peut-être qu'une réforme justement du service de sécurité va être faite. On verra bien.
On verra bien. En tout cas, l'information ce soir que vous nous livrez, Alain Accot, c'est bien que le parquet national antiterroriste saisi dans cette affaire suite à la tuerie à la préfecture de police de Paris. Vous restez évidemment en fil rouge avec nous. Vous revenez tout au long de cette soirée pour nous livrer les tout derniers éléments dans ce dossier. On va se retrouver dans un instant, votre grand journal du soir sur Europe 1, avec les grandes voix pour revenir sur cette marche dimanche contre la PMA et la GPA aussi, parce qu'il y a eu cet amendement surprise cette nuit. Vous écoutez Europe 1, il est 18h50. Les grandes voix dans ce studio, Charles Villeneuve, Laetitia Krupa, spécialiste communication politique. Dans quelques instants, ce sera le journal complet de Sébastien Krebs. Mais avant cela, il y a un rendez-vous dimanche dans les rues en France. Il y a une marche contre la GPA et la PMA. D'abord contre la PMA et la GPA. Mais en fait, il est facile pour peut-être ceux qui souhaitent manifester et appeler au plus grand nombre dimanche de lier les deux depuis l'amendement de la nuit dernière. On en a parlé avec mon invité Jean-Louis Touraine il y a quelques instants. Je voudrais qu'on prenne Edith qui est au téléphone avec nous. Bonsoir Edith.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous au téléphone. Edith, cette marche, comment vous l'envisagez? Cette discussion à l'Assemblée, cet examen, ce projet de loi de bioéthique, là, avec cet amendement sur la GPA, la gestation pour autrui, et les mères porteuses, donc, hier soir, vous dites quoi? Ça va mettre de l'huile sur le feu pour dimanche?
Je dis, je ne sais pas si ça va mettre de l'huile sur le feu, mais j'espère que tous les barrages vont être forcés et que les gens vont rentrer chez eux, parce que PMA, GPA, pour moi, c'est même combat. Tout le monde a droit au bonheur. Et je pense qu'il y a tellement de gens tordus qui ont des enfants naturellement et à qui on les laisse. J'ai fait partie de ce genre de gens, d'ailleurs. Tiens, en passage, moi, j'ai lu le livre de Marc-Olivier Fogiel que je conseille à tout le monde, qui est une merveille. Moi, je suis pour la PMA. Je suis pour les gens qui donnent du bonheur à des enfants et qui en ont besoin aussi. Et je reconnais à personne le droit à dénier le bonheur des autres. Voilà, je suis intolérante à l'intolérance.
Ce qui dit ça y est, c'est la porte ouverte aux mères porteuses aux France, la marchandisation des corps, là, ça ne...
Vous savez, si on lit le livre de Marc-Olivier, qui est très, très pédagogique, très pédagogue même, je pense que non. Il y aura des ouvertures à qui voudra bien en faire, des abus à qui voudra bien les laisser faire. Je pense qu'en France, on a suffisamment de carcans et de législateurs pour verrouiller les abus, comme on l'a fait dans plein d'autres domaines. Donc moi, je suis plutôt optimiste et je sais très bien que je fais confiance à ceux qui filtrent ce genre de choses, pour autant qu'ils soient équitables et objectifs. Parce que quand on lit le livre de Marc-Olivier, on voit que à cas égaux, traitement différent parfois, et c'est vraiment dommage. Voilà.
Merci
je
beaucoup.
Je pense que la vie est courte. Voilà.
Merci beaucoup, Edith, pour votre témoignage ce soir en direct sur Europe 1. Laetitia Krupa, Charles Villeneuve, on peut être à la veille d'une grosse mobilisation. Ils peuvent être chauffés à blanc dimanche dans les rues parce qu'il y a, depuis hier soir, depuis la nuit dernière, cet amendement qui consacre dans la loi la filiation d'un enfant né par mère porteuse à l'étranger aussi.
Ce qui est intéressant, c'est que le mot d'ordre de la manifestation a changé entre hier et aujourd'hui.
Exactement.
Alors, c'était contre la PMA sans père et la GPA, mais maintenant, c'est contre le projet de loi bioéthique, parce que bien sûr on a donné du grain à moudre aux futurs manifestants, mais ils sont plutôt ils sont pas si sûrs d'eux, hein. vous entendrez pas oui alors on va être tant, ils donnent aucun chiffre, ils espèrent évidemment qu'ils soient aussi nombreux contre le mariage pour tous, mais pour l'instant ils ne savent pas, parce que les sondages, et le témoignage là a été intéressant, dans les sondages il y a une majorité quand même de Français qui se déclarent pour la PMA pour les femmes seules et pour les lesbiennes. Donc pour l'instant ils ne sont pas vraiment certains de leur succès. Ils ont affrété des cars complets, deux TGV, donc bien sûr qu'ils ont mobilisé les troupes. Mais rien n'est sûr. Est-ce qu'en 24 heures, on peut complètement mobiliser sur en plus un amendement qu'on dit pour l'instant temporaire,
parce qu'il sera mercredi prochain, ce sera
délibéré à nouveau, un nouveau vote.
L'exécutif a parlé, ce sera évidemment. Charles Villeneuve, qu'est-ce qu'on se dit à l'avant-veille de ce rendez-vous dans les rues? Et puis, parce que ce débat, évidemment, continue à prendre des proportions, continue à cliver terriblement ce sujet?
Non, moi, c'est le contraire. Ce qui me frappe, c'est le côté dépassionné, justement. Je ne vois pas une mobilisation en masse autour de ce thème. C'est dû peut-être à l'évolution de la société depuis le mariage pour tous. Si vous voulez, on sent bien monter. Tu viens de citer les sondages, etc., que c'est accepté depuis le mariage pour tous. On sent que tout le reste va suivre petit à petit.
La société a évolué.
Et d'ailleurs, j'observe que la droite n'en a pas fait un véritable cheval de bataille. Dès lors, on voit bien qu'il n'y a pas de mobilisation réelle, importante, autour de ce thème. Ça n'est pas, si vous voulez, l'avant-garde de ce qui s'était passé pour le mariage pour tous. On n'en est pas du tout dans le même état de mobilisation.
Alors, depuis la nuit dernière, ils sont un petit peu remontés au créneau quand même, à droite, parce qu'ils ont eu l'impression, ils ont ce sentiment de trahison. Bruno Retailleau disait ce matin, je vais lutter contre l'ouverture de la PMA, si l'on estime que les enfants n'ont pas besoin de père, qu'on me le prouve. Et ils sont nombreux, Guillaume Larrivé et j'en passe.
Oui, mais vous les citez justement, et dans ceux que vous citez, vous n'avez pas remarqué que ce sont quand même des politiques, de seconde zone. Je vous rappelle que pour la manif contre le mariage pour tous, il y avait François Fillon, il y avait Laurent Wauquiez, qui était vraiment d'un poids politique autre. Là, bon,
oui, mais même du côté des marcheurs, Laetitia Krupa, même du côté des marcheurs, ils étaient pas. D'abord, ils étaient très peu nombreux hier dans l'hémicycle. C'était un hémicycle extrêmement clairsemé. Et même du côté des marcheurs, on a entendu notamment Aurore Berger, ils s'inscrivent en faux.
Oui, mais jusqu'à présent, le poids politique de cet électorat-là ne semble pas avoir pesé. Et donc, est-ce que la mobilisation va arriver en 24 heures derrière pour peser ? Je suis sceptique.
Alors, on observera ça de près, évidemment, et on commentera ça avec vous le lendemain, lundi soir, dans ce studio. Merci beaucoup, les grandes voix, Laetitia Krupa, Charles Merci. Villeneuve, le journal, évidemment, de Sébastien Krebs dans un petit instant. La une de l'actualité ce soir, on va revenir sur cette attaque au couteau commise hier à la préfecture de police de Paris. Enquête désormais confiée au parquet antiterroriste. Vous êtes sur Europe 1, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. Vous êtes sur Europe 1, votre grand journal du soir, avec le programme jusqu'à 20h, 19h10, l'invité politique de David Doucan, l'ancien ministre de l'économie, Michel Sapin, sera dans ce studio. Demain en France, direction Lyon à 19h20, ensuite demain dans le monde, on prendra la direction de Londres, et puis 19h30, c'est déjà le week-end sur Europe 1, je recevrai le maire adjoint de la culture, à la culture de Paris, Christophe Girard. On va parler de Jeff Koons, vous savez, cet artiste quand même assez controversé. D'abord, c'est le journal de 19h, avec Sébastien Krebs. Vous écoutez Europe 1, il est 20h, il est 19h.
La lucidité de policier nous amène à n'exclure strictement aucune hypothèse à ce stade.
C'est un tournant ce soir dans l'enquête sur l'attaque au couteau commise hier à la préfecture de police de Paris. L'enquête est désormais confiée au parquet national antiterroriste. On fait un point complet dans quelques secondes avec Guillaume Bier.
Dans l'actualité également ce soir, que s'est-il passé dans le Jura pour qu'une quinzaine de collégiens soient victimes hier soir d'une grave intoxication ? Les analyses sont toujours en cours.
570 salariés sur le carreau. Malheureusement, ils s'y préparaient. La compagnie XL Airways placée en liquidation judiciaire. Et puis nos espoirs ce soir aux mondiaux d'athlétisme reposent sur la doyenne de la délégation française, Mélina Robert-Michon, 40 ans en finale du disque.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Du soleil sur un petit tiers sud demain et pas du tout au nord.
Europe 1. L'attaque au couteau perpétrée hier au cœur de la préfecture de police de Paris par l'un de ses employés est-elle un attentat terroriste ? La question se pose clairement ce soir alors que le parquet national antiterroriste est finalement saisi de l'enquête. Guillaume Bier, est-ce qu'on sait ce qui justifie cette décision ?
Alors, ce qui fait basculer l'enquête en ce sens, ce sont deux éléments à ce stade. D'abord, les déclarations de la femme du meurtrier. Elle est toujours interrogée par les policiers de la brigade criminelle. Sa garde à vue a été prolongée parce qu'elle apporte aux enquêteurs des éléments nouveau et déterminant sur la possible radicalisation de son mari. Et puis l'autre indice, c'est le contenu du téléphone portable de l'assaillant. C'est hier matin, juste avant l'attaque, qu'il a acheté le couteau en céramique avec lequel il a commis ses crimes. Et d'après nos informations, il a prévenu sa femme par SMS, laquelle ne l'aurait absolument pas dissuadé de passer à l'action. Voilà pourquoi sa garde à vue est prolongée. C'est ce qui donne une tournure terroriste à cette tuerie, alors que jusqu'ici, cet agent administratif de la préfecture de police, certes converti à l'islam il y a 2 ans, n'avait jamais présenté le moindre signe d'alerte ni de difficulté comportementale. C'est ce que disait hier le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. L'enquête est désormais menée par le parquet national antiterroriste, confié à la section antiterroriste de la brigade criminelle, la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et la DGSI pour l'aspect renseignement.
Guillaume Bia du service police-justice d'Europe 1.
Un lycéen est mort aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, Sébastien, poignardé au beau milieu d'un cours de sport.
Ça s'est passé au Lila, tout près de Paris, au stade municipal où des élèves de plusieurs établissements suivaient leur cours de PS. Une bagarre a éclaté et c'est semble-t-il en s'interposant que cet adolescent de 15 ans a été poignardé sous les yeux de ses camarades. Il est mort peu après des suites de ses blessures. 3 mineurs ont été placés en garde à vue.
Grosse frayeur pour beaucoup de parents hier à Morbier, cette fois dans le Jura. Une quinzaine d'adolescents intoxiqués. Certains ont été hospitalisés dans un état grave.
Oui, ce soir, les nouvelles sont rassurantes. Seule une élève restait à l'hôpital aujourd'hui, mais dans un état stationnaire. Jean-Luc Boujon, vous vous êtes rendu sur place. Tout ce qu'on sait, c'est que tous ces élèves ont pris un goûter après un cross hier, mais on ne connaît toujours pas l'origine de l'intoxication.
Bah écoutez, ce soir, on n'est pas beaucoup plus avancé. Hein. L'enquête des gendarmes prend du temps et le fil conducteur entre tous ces cas d'intoxication est difficile à trouver. Le seul point commun, c'est finalement que les 5 adolescentes hospitalisées hier ont bu de l'eau et ou du sirop à l'issue de la course lors du ravitaillement. Et l'eau n'est pas forcément hors de cause, explique le procureur de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal, contrairement à ce qu'a pu dire l'Agence régionale de santé.
L'ARS a effectivement hier procédé à une analyse de l'eau de consommation qui était l'eau distribuée dans le gymnase et il semblerait que cette eau soit exempte de tout problème sanitaire. Mais l'ARS n'a pas contrôlé l'eau qui était dans les pichets puisque les pichets étaient saisis, étaient sous main de justice. Donc nous espérons des premiers résultats dans une semaine.
Voilà, alors autre piste explorée, celle d'un produit ou d'un médicament qu'un élève aurait pu amener et partager avec ses camarades. Le procureur n'excluant pas non plus des troubles psychosomatiques ou des réactions de mimétisme chez certaines adolescentes après les premiers malaises. Les auditions se poursuivent donc, sauf celle de la jeune fille la plus gravement atteinte. Elle est certes désormais consciente et tirée d'affaire, mais les médecins de l'hôpital de Besançon n'ont pas autorisé les enquêteurs à l'interroger.
Jean-Luc Boujon dans le Jura pour Europe 1.
Un exercice inédit a démarré aujourd'hui. Convention citoyenne pour le climat. 150 Français tirés au sort ont 4 mois pour réfléchir et formuler des propositions de mesures à prendre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les travaux ont été lancés cet après-midi par Édouard Philippe qui leur a promis qu'il pourrait débattre librement et qu'il n'entendrait pas parler du gouvernement.
À Rouen, après l'incendie de Lubrizol, des analyses supplémentaires sont encore nécessaires pour savoir si les produits agricoles sont consommables.
Près de 200 prélèvements ont été effectués en Haute-Normandie, jusque dans les Hauts-de-France, mais la préfecture estime qu'il faut mener ces tests sur encore plusieurs jours. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Du coup, les mesures de confinement et d'interdiction de commercialiser sont maintenues.
On s'y attendait, hein, Sébastien. C'est fini pour XL Airways. La compagnie a été placée en liquidation judiciaire aujourd'hui même par le tribunal de commerce de Bobigny.
Oui, Aurélien Fleurot, la seule offre de reprise n'a pas été jugée assez solide. Ça veut dire licenciement pour 570 salariés.
Oui, un licenciement qui sera effectif fin octobre. Et c'est vrai que les salariés avaient fait le deuil de leur compagnie dès mercredi. Ce petit sursis n'aura fait que retarder l'échéance et aura fait verser des larmes une deuxième fois à Catel Picolec, représentante CGT, qui travaillait chez XL depuis 19 ans.
Des passagers au sol, des salariés en détresse, enfin c'est la détresse pour tout le monde là. XL Airways, c'est l'histoire de ma vie. Moi je suis rentrée chez XL Airways, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 38. Voilà, j'ai grandi dans cette compagnie, elle m'a apporté énormément, j'ai quasiment tout appris dans cette compagnie. Et cette compagnie elle a tout et là on... aucune chance pour la suite et c'est un énorme gâchis.
Le patron de la compagnie, Laurent Magnien, n'a pas fait le déplacement aujourd'hui à Bobigny. Lui non plus, cette offre de dernière minute, il n'y croyait pas. Il est resté au siège de XL Airways à Roissy avec une grande partie des salariés. Il a réagi par communiqué. Ce qui vient de se passer est une humiliation. La médiocrité des plans de reprise restera comme un jour noir. Si rien n'est fait dans les prises de conscience politiques, économiques et publiques, d'autres catastrophes se produiront. Il fait bien sûr référence à l'autre faillite de l'aérien français, celle des Glazures, et qui laisse en tout sur le carreau 1700 salariés en quelques jours.
Aurélien Fleurot du service économie d'Europe 1. Le député Thierry Solaire chez les juges, l'élu des Hauts-de-Seine, est entendu depuis 3 jours dans une enquête pour fraude fiscale, trafic d'influence et détournement de fonds. Il est interrogé sur ses activités de conseil dans le privé, soupçonné d'avoir usé de sa position d'élu pour favoriser certaines des sociétés pour lesquelles il a pu travailler.
Les sports, Sébastien, on retourne à Doha ce soir, voir finalement en quelque sorte une outsider, en fait la doyenne de la délégation française aux Mondiaux d'athlétisme.
Oui, elle s'appelle Mélina Robert-Michon. Elle a déjà remporté plusieurs médailles dans le passé. Elle a 40 ans et elle est toujours là au plus haut niveau. On va rejoindre Corinne Boulou à Doha. C'est une revenante parce qu'elle avait fait une pause, Corinne, et elle dispute ce soir la finale du disque.
Tout à fait. Sur les derniers grands championnats, Mélina Robert-Michon, c'est 3 médailles. Bronze aux Mondiaux de Moscou en 2013, argent aux Jeux de Rio 2016 et à nouveau bronze au championnat du monde de Londres il y a 2 ans. La Lyonnaise compte 60 sélections sous le maillot de l'équipe de France dans une discipline, il est vrai, le lancer de disque peu mise en avant. Sa singularité dans cette équipe, vous l'avez dit, c'est qu'elle est une maman championne. Après avoir donné naissance à sa deuxième fille, Enora, en juin 2018, eh bien c'est pour elle une saison de reprise. Compliqué au début de retrouver ses sensations, bien entendu. Mais fort heureusement, sa première pause maternité lui a servi d'expérience. Et Mélina Robert-Michon, après avoir réussi à se qualifier pour ses 8e championnats du monde, a réussi également à se qualifier pour sa 6e finale mondiale. Ce sera dans une heure. Alors elle est ici en outsider et elle espère bien tirer son épingle du jeu devant cette fois un stade quasi rempli. Il a fallu attendre 8 jours pour cela à Doha, au Qatar.
Corinne Boulou depuis Doha pour
Europe 1. Et puis le foot avec des mauvaises nouvelles pour Kylian Mbappé, contraint de déclarer forfait pour le match du PSG contre Angers ce week-end, c'est demain. Kylian Mbappé pas totalement remis de sa blessure à la cuisse, ce qui le rend aussi incertain pour les matchs de l'équipe de France prévus à la fin de la semaine prochaine. Ce soir, la Ligue 1, début de la 9e journée, c'est Amiens-Marseille. Coup d'envoi 20h45.
Merci Sébastien. 19h30, un nouveau rappel des titres. Ce sera avec vous en direct, bien sûr.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Valérie Darmon nous a rejoint pour nous dire que le temps de nos régions est assez homogène ce week-end.
Eh oui, et il est moche. Il est maussade, bon. De la Normandie au Grand Est, Bretagne et Centre, en passant par le bassin parisien, la Bourgogne, la Franche-Comté, les nuages qui seront nombreux, pluie faible, les bruines tomberont de façon intermittente toute la journée, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Auvergne, à Rhône-Alpes, en passant par l'Occitanie. Là, le ciel est très couvert le matin. En revanche, au sud de ces régions, entre les Pyrénées, les monts d'Ardèche, la Provence, il se dégagera rapidement grâce au vent. Fourchette des températures toujours douces, l'après-midi entre 14 à Verdun et 25 à Montpellier.
Europe 1. 19h et pratiquement 9 minutes en direct sur Europe 1. Vous avez rendez-vous avec l'interview politique de David Doucan qui s'est installé dans ce studio à mes côtés. Bonsoir David.
Bonsoir Nathalie.
Avec votre invité ce soir, dites-nous.
Alors,
tout.
Il est ancien ministre des Finances, ancien ministre du Travail. Il est même passé à une époque par le ministère de la Justice. Il est toujours socialiste. C'est un ami de François Hollande. Mon invité est Michel Sapin.
David Doucan, on vous retrouve dans un instant. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Lors de votre interview politique dans le Grand Journal du Soir sur Europe 1 avec vous, David Doucan, vous recevez ce soir l'ancien ministre socialiste de l'économie et des finances, Michel Sapin.
Bonsoir Michel Sapin.
Oui, bonsoir.
Alors vous l'avez vu, le parquet antiterroriste vient de se saisir de l'enquête après l'attaque au couteau qui a eu lieu au sein même de la préfecture de police de Paris. 4 fonctionnaires ont été tués par l'un de leurs collègues qui était dans ce service. Marine Le Pen a déjà réagi. Je cite, « Si la dimension terroriste était confirmée, cela signifie que l'un des hauts lieux du renseignement français accueillait en son sein un islamiste. Ce serait un scandale majeur. » Qu'en dites-vous, vous, Michel Sapin ?
Je dis d'abord que c'est un grand malheur pour les policiers eux-mêmes, ceux de la préfecture de police comme tous, qui sont très solidaires et qui par ailleurs traversent des moments qui sont difficiles parce qu'ils sont confrontés à des mobilisations et qu'ils se donnent beaucoup pour tout cela. Donc j'ai d'abord et avant tout cette pensée-là et je pense qu'il vaudrait mieux commencer par avoir cette pensée-là plutôt que d'avoir une pensée purement polémique, avant de rentrer dans la polémique.
C'est le cas, selon vous, de Marine Le Pen ?
Oui, comme toujours. Elle se saisit de tout sujet de cette nature pour essayer d'en faire de la polémique. Après, dans toute administration, comme dans toute entreprise, la question du repérage de ceux qui peuvent, à un moment donné, non pas se convertir, chacun a le droit à la religion qu'il souhaite, mais rentrer dans un processus qui est un processus de radicalisation, ça c'est toujours une question difficile. Mmh. Et ça doit être d'autant plus attentif à cela que l'on est dans un lieu qui est un lieu comme celui de la préfecture de police.
Je précise que nous ne savons pas encore à cette heure les raisons qui poussent le parquet antiterroriste à se saisir de l'affaire, mais cependant il s'en saisit. D'où cette question, est-ce que l'on peut, selon vous, vous avez l'expérience de l'État, améliorer justement les techniques de repérage dans les services publics ?
Sûrement. On peut toujours améliorer. Et il y a une limite à l'amélioration, qui est la liberté d'opinion, la liberté d'exercer la religion que l'on souhaite. Il ne doit pas y avoir de délit ni au faciès, ni à l'opinion, ni à la religion. Donc il y a des techniques psychologiques de repérage, des processus de radicalisation. Ça vaut partout. Ça vaut dans les entreprises, comme ça peut valoir, bien sûr, dans les administrations, tout particulièrement dans les administrations qui sont au cœur de l'État, comme celle-ci.
Alors, Michel Sapin, on avance. L'actualité, c'est aussi ce président, Emmanuel Macron. Vous l'avez bien connu. Vous le voyez en 2016 à Bercy fomenter son coup, pousser peut-être François Hollande à ne pas être en capacité de se représenter à l'élection présidentielle. Et vous l'observez peut-être encore aujourd'hui, 3 ans plus tard. Il est à Rodez. Il explique sa réforme des retraites. Le lendemain matin, à Cournon d'Auvergne, où il bataille avec les éleveurs. Est-ce qu'il est en train, ce président, de réussir à réformer la France ? Ou bien est-ce que, selon vous, il est au contraire en train d'échouer ?
Bon, je crois ni l'un ni l'autre. Simplement, il est différent. Ce président de la République d'aujourd'hui n'est pas le même, il le dit d'ailleurs lui-même, que celui que nous avons pu connaître dans une période où la verticalité, pour ne pas dire parfois la suffisance, était la marque de fabrique, si je puis dire, du président et de ceux qui l'accompagnaient.
Il a changé à vos yeux.
Il y a une forme d'humilité, en tous les cas, Dans la forme, il y a de l'humilité, une volonté de dialogue qui autrefois était niée, comme étant un moment où on perdait du temps. Dialoguer avec les syndicats, c'était perdre du temps. Dialoguer avec les élus, c'était perdre du temps. Donc, tout cela a marqué les esprits et est certainement une des causes principales de cet événement lourd, de ces événements lourds que nous avons connus à la fin de l'année précédente et au tout début de cette année.
La colère des gilets jaunes.
Donc, il en a tiré, dans la forme en tous les cas, un certain nombre de consensus. Je ne vais pas le critiquer. Mener des débats, c'est une bonne chose. Être présent sur le terrain, c'est une bonne chose. Dialoguer avec les uns et les autres, retrouver peut-être le sens du dialogue avec les élus locaux qui sont confrontés à ces difficultés, c'est une bonne chose. Alors, a-t-il...
Mais est-ce que c'est sincère ? Vous dites dans la forme, alors.
A-t-il changé en profondeur ou pas ? Au fond, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est pourquoi faire.
Alors justement,
est-ce que c'est au service d'une réforme utile ou non ?
Et on y vient. Parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est le fond de la réforme. Vous êtes aussi ancien ministre du Travail. Un régime universel, la suppression des régimes spéciaux, c'est la bonne idée selon vous ?
La difficulté du débat d'aujourd'hui, c'est que, vous le savez bien, il y a en fait deux débats dans un débat. Il y a un débat de fond, de principe, qui est intéressant. Je pourrais même vous dire que parmi des propositions de la gauche depuis longtemps, cette généralisation de la sécurité sociale, et en particulier des régimes de sécurité sociale à tous, faisait partie de notre patrimoine. Et même la réflexion sur la question de la retraite à points fait partie du patrimoine social-démocrate. D'ailleurs, les grandes social-démocraties en Europe ont mis en place ce système-là. Donc, c'est un débat qui n'est pas du tout illégitime. On a parfaitement le droit de le mener. Mais il vient en même temps qu'un autre débat qui est celui sur le trou de la sécurité sociale,
l'aspect
le trou
budgétaire,
des retraites,
l'aspect budgétaire.
Et a été relancé, à mon avis, de manière inopportune et non conforme à la réalité, ce débat que les spécialistes appellent paramétrique. Paramétrique, c'est très simple pour les Français. C'est de combien on va diminuer ma retraite, de combien on va augmenter mes cotisations, ou de combien on va repousser mon âge de la retraite.
Vous anticipez une baisse des pensions, là. Vous la voyez venir ?
Non, je pense qu'elle n'est pas nécessaire. Et c'est là où je pense qu'il y a une erreur qui a été commise. C'est au lieu de mener ce débat légitime, pour mener de manière rationnelle, raisonnable, pour ne pas inquiéter, donner des réponses à tous ceux qui se posent des questions sur ce nouveau dispositif qui pourrait être mis en place, on a eu tout un débat sur l'âge de la retraite, l'âge pivot...
Mais le président l'a clos, ce débat, Michel Sapin. Il a dit, on ne touchera pas à l'âge, on va augmenter la durée de cotisation.
Oui, bon, alors là, on est dans les mots. Donc,
c'est ce que Marisol Touraine avait fait, François Hollande, à l'époque.
Oui, mais on ne va pas toucher à l'âge. Sauf qu'il paraît qu'il faut qu'il y ait un âge pivot. Ah non, il ne faut pas qu'il y ait un âge pivot, il faut rallonger la durée de cotisation. Vous voyez que ce sont des sujets qui paraissent comme ça, un peu abscons, mais c'est quand même très différent. Bon. Rallonger la durée de cotisation, c'est permettre à des gens qui ont commencé très tôt de partir tôt. Repousser l'âge de la retraite, y compris avec l'âge pivot, c'est repousser l'âge de la retraite, y compris de ceux qui ont commencé.
Nous sommes nombreux à avoir eu le sentiment que le président avait fermé ce débat en disant, juste après le G7 de Biarritz, on ne touchera pas à l'âge, ce sera la durée de cotisation. Vous avez compris autre chose, peut-être ?
J'ai cru comprendre que lorsqu'il s'est exprimé tout récemment, là, il y a quelques heures, il n'avait pas complètement clos ce débat.
Ah, il l'a rouvert.
Il l'a rouvert.
Alors, Michel Sapin, j'ai une question à vous poser. Où sont les socialistes ? Où sont les socialistes ? Là, il y a un débat sur l'immigration. La jeune génération, entre guillemets, totalement inaudible.
C'est une question que je me pose aussi. Et que je regrette. Parce que je crains aujourd'hui que l'expression de la jeune génération soit une expression de fusion, de diffusion, de confusion par rapport à d'autres à gauche. Il faut discuter avec toutes les forces de gauche. Il faut vouloir se rassembler. Il faut rechercher l'unité. Mais sur quelque chose, sur un contenu, sur une attitude, sur des propositions. Or, je ne le sens plus et je ne le sens pas. Et je trouve ça très dommageable.
Alors, qu'est-ce que vous préconisez ? Est-ce qu'il faut faire passer le Parti Socialiste par pertes et profits ? Créer quelque chose de nouveau ?
C'est pas le nom lui-même. Nous sommes appelés Parti Socialiste, mais nous sommes appelés dans notre histoire par d'autres noms.
La SFIO,
etc. Et puis, comme il y a eu des composantes, on ne peut pas dire que le PSU faisait aussi partie de l'histoire du socialisme français. Donc, on peut changer les noms. Mais il y a quelque chose qui doit être pérenne. Il y a des valeurs profondes auxquelles il faut tenir. Et puis, il y a aussi un héritage, il y a un passé. Ce passé, il peut être critiqué. On a parfaitement le droit de critiquer, par exemple, l'action qui a pu être la nôtre pendant les 5 ans. Mais il faut aussi de la fierté. Si on n'est pas fier de ce que l'on a été, comment peut-on donner confiance à ceux vers qui on se tourne.
Qui va le faire, donner confiance? Est-ce qu'il y a encore un peuple de gauche? En fait, je vais vous dire, je vous pose la question bêtement, mais est-ce qu'il y a encore des gens dans ce pays qui attendent, par exemple, le retour d'un François Hollande, d'un Michel Sapin, d'une Ségolène Royal, d'un Bernard Cazeneuve?
Si vous le mettez autour des personnalités, vous aurez forcément des gens qui vous diront non, pas celui-là, pour telle ou telle raison. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que cette gauche, qui est quoi? On dit socialisme, c'est la gauche de la réalité, c'est la gauche qui se coltine à la réalité, parce qu'elle sait que si on ne prend pas des responsabilités, on ne change rien. Alors on peut crier très fort qu'il faut tout changer, on peut avoir des attitudes pour de réclamer du changement, et puis à la fin, rien ne change. Et qui est-ce qui est gagnant? Ceux qui sont les conservateurs et ceux qui sont les tenants des politiques.
Mais vous œuvrez à cela ou bien vous dites, voilà, c'est comme ça, c'est fini, c'est perdu d'avance. Il y aura Macron-Le Pen en 2022.
Je ne pense pas du tout que ce soit perdu d'avance. Je pense que ma génération a des choses à dire, mais ce n'est pas ma génération qui va faire. Si on demande à ceux de plus de 60 ans d'être les acteurs d'une évolution et d'un changement, nous ne serons pas crédibles. Est-ce que cela n'ont rien à faire et rien à dire. Si, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous m'invitez.
L'appel de Michel Sapin aux jeunes socialistes. Réveillez-vous, c'est ça que vous leur
Soyez
dites.
Fiers Soyez fiers de votre passé, même si on doit être lucide aussi sur les erreurs.
Michel Sapin, merci d'avoir accepté mon invitation. Europe
1. À suivre dans votre grand journal du soir à 19h30. On est quasiment au week-end. Christophe Girard, l'adjoint au maire de Paris en charge de la culture, va nous rejoindre. On va évoquer ensemble l'artiste américain et contemporain et provocateur qui fait polémique, Jeff Koons. Et puis la nuit blanche également, c'est ce week-end. On parlera cuisine japonaise avec le chef étoilé Guy Savoy. Et puis Carmen au programme. C'est votre grand journal du soir et c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit en direct jusqu'à 20h. On est en région chaque soir à cette heure-ci, au plus près de vous, ce soir direction Lyon. Bonsoir Jean-Luc Boujon.
Bonsoir Nathalie.
Vous êtes notre correspondant sur place. Alors demain a lieu chez vous une grande vente aux enchères d'objets qui ont appartenu à qui? À Paul Bocuse, s'il vous plaît.
Ouais, carrément. Si vous avez envie de frimer un peu devant vos amis et de mettre dans votre cuisine un objet griffé Bocuse, eh bien vous devez aller à cette vente aux enchères. Une centaine d'objets mis en vente, des plus petits, des pièces de vaisselle, au plus gros, les voitures du chef, en passant par de magnifiques grands crus issus de sa cave.
Eh bien dites-moi, et il paraît qu'on peut même acheter la voiture?
Oui, il y en a même deux, Nathalie, deux Mercedes. Alors, je ne vous cache pas que ce sont les objets les plus chers. Il y a la Mercedes 500 de 1985, un énorme paquebot avec laquelle le pape de la gastronomie se baladait souvent à Lyon, mise à prix 5000 euros. Et puis, son 4x4 Mercedes de 2001, là, c'est un peu plus cher, c'est 20 000 euros de mise à prix.
Ah oui, quand même. Ouais, bon, d'accord. Alors, je vais faire la petite joueuse, je vais me rabattre sur une bonne bouteille, vous permettez?
Ah bah très bon choix madame, parce que dans la cave de Bocuse, il y a des pépites en Bourgogne, en Bordeaux, des Pétrus, des Châteaux Margaux, des Ossets du Reste, mis à prix entre 100 et 2000 euros quand même. Il y a même une bouteille de Bordeaux, Château Bellorme Tronquois de la Lande, de l'année de naissance de Bocuse, 1926. Et en plus c'est pas la plus chère, mise à prix 60 euros, et puis ça ferait pas mal dans votre salon.
Bah ouais, l'argenterie, la vaisselle par exemple aussi, non?
Alors, je vous conseille une soupière, mais une soupière très particulière.
C'est pas très moderne, écoutez, mais bon...
Pas très moderne, mais ça peut faire bien. Écoutez, Vincent Leroux, c'est le directeur du restaurant Paul Bocuse de Collonges-au-Mont-d'Or.
C'est une soupière qui avait été créée à l'origine par Paul Bocuse pour la remise de Légion d'honneur à l'Élysée en 1975. D'accord. Et ce bol mythique n'a jamais changé de forme et on a toujours gardé au fur et à mesure des années. Et ce plat est toujours servi au restaurant.
C'est quoi la soupe?
Donc, la soupe aux truffes VGE pour Valéry Giscard d'Estaing, donc qui était le président français de l'époque qui avait remis la Légion d'honneur à Paul Bocuse et il l'avait fait à l'Élysée.
Voilà, alors la mise à prix pour les 6 bols et la soupière, 100 euros. Alors précisons quand même que les bénéfices de cette vente iront à la Fondation Paul Bocuse qui mène des actions d'insertion auprès des jeunes. Donc vous ferez une bonne action si vous achetez. Ouais. Et puis vous serez sûrement très heureux. Et puis le rendez-vous, on le dit quand même.
Hein. Ah bah,
il est fixé au puce du canal à Villeurbanne demain. C'est à 11h tapante.
Alors on a pris note. Moi j'ai mis une option sur 2-3 pièces.
Hein. Allez. On sera peut-être en concurrence, Nathalie. Hein. Méfiez-vous.
Bon, on voit ça demain. Merci beaucoup, Jean-Luc Boujon.
Bonne soirée.
À Lyon pour Europe 1. On s'éloigne un peu à 19h26, l'actualité dans le monde, demain dans le monde précisément, notre rendez-vous avec une étape à Londres ce soir avec vous Anaïs Cordoba, bonsoir.
Bonsoir.
Ce qui va agiter l'actualité du week-end chez vous Anaïs, c'est la crise du parti conservateur que dirige Boris Johnson et plus généralement la classe politique britannique qui n'en finit pas de se déchirer, mais véritablement à cause de ce Brexit.
Tout à fait, avec le départ fracassant ce matin d'une figure chez les conservateurs, Rory Stewart, conservateur modéré pro-européen qui s'est fait connaître par le grand public dans la course à Downing Street contre Boris Johnson. Il claque la porte et se présentera comme indépendant à la mairie de Londres en mai prochain. Son but, protéger la capitale du Brexit et lutter contre l'extrémisme qui empoisonne la politique britannique.
Ouais, parce que Anaïs, hein, faut le savoir quand même, depuis l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson, c'est clairement la purge au sein des conservateurs. Hein.
Oui, on en est à 25 députés ou ministres conservateurs qui ont soit démissionné, quitté le parti ou s'en sont fait éjecter, tous victimes de désaccords sur le Brexit avec Boris Johnson. Il lui reproche sa radicalisation. Écoutez le dépit de ces militants modérés que j'ai rencontrés au Congrès des conservateurs cette semaine.
Je ne me sens plus chez moi dans ce parti à cause du rejet des modérés. Boris Johnson devrait essayer de tendre la main au lieu de mettre le feu aux poudres dans ce pays et de nous faire sortir de l'Union européenne sans accord.
Les Brexiteurs n'écoutent actuellement que les extrémistes. C'est très mauvais pour la politique dans ce pays. C'est en train de compromettre nos relations internationales avec d'autres pays. Franchement, en ce moment, j'ai honte d'être un conservateur.
Et dans les prochains jours, Anaïs, ça pourrait continuer de se corser alors, hein ?
Oui, ce week-end, des discussions sont en cours, hein, entre la Grande-Bretagne et Bruxelles. Si rien n'en ressort et que Boris Johnson précipite le pays vers une sortie sans accord, alors de nombreux députés de son camp pourraient encore se retourner contre lui.
Anaïs Cordoba, depuis Londres pour Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, dans moins de deux minutes, le rappel des titres de Sébastien Krebs. Et puis, Christophe Girard sera avec nous. Il est le maire adjoint à la culture de Paris. Vous savez, les tulipes de Jeff Koons, ça y est, elles sont installées, mais elles continuent de faire parler. On en parle dans votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
19h31 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit bien sûr en direct jusqu'à 20h avec vous Sébastien Krebs d'abord pour l'actualité.
La piste terroriste envisagée dans l'enquête sur l'attaque au couteau de la préfecture de police de Paris, alimentée par les déclarations de la femme de l'assaillant et le contenu de son téléphone portable, désormais c'est le parquet national antiterroriste qui est saisi. Des coups de couteau en plein cours de sport, un lycéen de 15 ans est mort aujourd'hui, ça s'est passé au Lila en Seine-Saint-Denis, il semble qu'il se soit interposé lors d'une bagarre. À retenir également ce soir, la cour de cassation qui conclut le combat judiciaire de près de 20 ans des époux Menson et reconnaît la filiation de leurs deux filles nées par mère porteuse aux États-Unis. L'actu du foot et la fin du psychodrame à Saint-Etienne. Claude Puel est nommé manager et entraîneur. Gislain Printemps débarqué au PSG. Kylian Mbappé, pas totalement remis de sa blessure à la cuisse, doit déclarer forfait pour la réception d'Angers demain. Il est incertain aussi pour les prochaines rencontres avec les Bleus. Ce soir, début de la 9e journée de Ligue 1, l'OM est en déplacement à Amiens.
Sébastien Krebs, le week-end c'est pour vous. On se retrouve à 18h lundi, enfin un peu avant pour préparer quand même, accessoirement. Merci à vous. Et Valérie Darmon qui vient de dire que ce week-end c'est pas brillant.
Eh oui, samedi gris et humide au nord, ensoleillé au sud, sur une large moitié nord, n'oubliez pas vos parapluies parce que le matin les averses résiduelles sont nombreuses. Et en plus, on a une nouvelle dégradation qui arrive par la Bretagne en fin de journée avec son lot de nuages et de pluie aussi. Il fera très beau en revanche au sud de la Garonne, jusque sur les Alpes-Maritimes, grâce au vent. Dimanche, arrivée d'une nouvelle dégradation, c'est la valse des perturbations qui circule donc entre la Manche et la mer du Nord et qui apporte des pluies soutenues et un renforcement du vent sur le Nord toujours, le temps qui restera sec et beau sur le Sud. Et les températures tout de même, dans ce ciel un petit peu maussade, il faut le dire, pas folichon, toujours douce.
Et un petit mot, un petit zoom, allez, sur Paris, parce que c'est la nuit blanche, c'est samedi.
Sur Paris, eh ben, écoutez, très nuageux, bon. Un petit peu pluvieux, donc on prévoit les parapluies, on prévoit un petit pull et puis des bottes.
Bon, samedi soir, donc il faudra être équipé,
mais on
profite
dedans,
évidemment sous les étoiles. Merci beaucoup Valérie. Dans votre grand journal du soir, justement, on se prépare à ce week-end. Alors Marion Sauveur et Thierry Geffrotin nous rejoindront dans 15 minutes, mais avec nous tout d'abord, Christophe Girard, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes le maire adjoint à la culture de Paris. Diane Chénouda est également avec nous. Hello.
Bonsoir.
Diane, parce qu'on va parler d'abord de ce Jeff Koons, ce phénomène Jeff Koons, cet artiste américain original, contemporain, controversé, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis la nuit blanche, on va zoomer aussi dans une seconde. D'abord Jeff Koons, vous avez à la mi-journée assisté, ça y est, à l'installation de cette œuvre, ces tulipes, ce bouquet de tulipes géants. Franchement, vous aimez ?
Ah oui, beaucoup. Et puis je suis passé en venant ce soir chez vous, il y avait beaucoup de monde.
Ah bah voilà,
il y avait
parce que c'est juste tout près du petit palais.
Touristes, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait des familles, il y avait des curieux. Les gens se prenaient en photo.
Ouais.
Et on sentait ce que nous avions un peu imaginé avec Anne Hidalgo en acceptant ce cadeau que faisaient les États-Unis, le président Obama par Jen Hartley, son ambassadrice de l'époque. D'ailleurs, les deux ambassadrices étaient là, celle du président Trump actuellement et Jen Hartley. Donc, on voyait que là réunissait quand même les sensibilités politiques. Il y avait beaucoup de monde pour l'inauguration. Et franchement, d'abord, le bouquet...
Ah bah il est imposant, hein. Mais 12 pas... mètres de haut, 8 mètres de large, non, 10 mètres de profondeur.
Il
n'est
pas très haut, vous verrez, quand ça, on passe.
Ça, quand on...
Ah, il est quand même impressionnant.
Vous l'avez vu, Diane.
Oui. Mais Diane, par rapport aux arbres, franchement, il est beaucoup plus bas. Et on n'a jamais aussi bien vu le petit palais qu'on ne voyait jamais de dos.
Ah bah oui, non, mais attendez, Christophe Girard, franchement, on ne va pas se raconter d'histoire. Vous me dites que vous aimez, admettons.
Je ne suis pas le seul.
Mais, ok, peut-être, mais il y a quand même énormément de monde. Et ça fait 3 ans d'ailleurs qu'on discute de ce sujet, de savoir où est-ce qu'on l'installe, ce bouquet de tulipes. Vous l'avez réglé, mais ça ne plaît pas à tout le monde. On avait tout à l'heure des auditeurs qui nous le disaient d'ailleurs. Ça ne plaît pas parce que ce n'est pas un artiste français, parce que c'est trop imposant, parce que ça coûte, parce que l'emplacement, il a fait un peu la fine bouche, il ne voulait pas être à la Villette, il voulait être au Palais de Tokyo.
Non. À vrai dire, ce n'est pas la vérité. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, évidemment, c'est que tout opposant, toute opposition est beaucoup plus audible, finalement, que celles et ceux qui font confiance aussi à la place de l'art dans l'espace public. Mais croyez-vous qu'aujourd'hui, tout le monde aime le centre Georges Pompidou ? Non. Moi, j'étais maire du 4e arrondissement. C'est dans le 4e arrondissement. Beaucoup de gens me disent quand même, le centre Pompidou, ses tuyaux... Ben voilà, l'art ne fait pas consensus. L'art est là pour faire débat.
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et il a été exposé, rétrospective, au Centre Pompidou, et à Versailles, et dans le monde entier. Voilà.
Alors, Christophe Girard, on s'en reparle dans une petite seconde. Diane Chénouda a inspecté ce bouquet, elle va nous dire...
Mais non, mais c'est vrai que
dans une seconde,
dans
Diane,
une seconde,
dans une seconde.
Pardon, Nathalie.
On se retrouve en direct jusqu'à 20h sur Europe 1, votre grand journal du soir. Christophe Girard est notre invité, maire adjoint de Paris pour la culture. Diane Chénouda, bien sûr, parce que vous avez vu cette nouvelle œuvre de Jeff Koons installée.
Oui, c'est vrai qu'elle est impressionnante. Voilà. Alors, c'est vrai que ça a quand même été, pardonnez-moi Christophe, d'abord un cadeau empoisonné quand même, ce bouquet de tulipes de Jeff Koons au départ, il y a 3 ans. Ses détracteurs dénonçaient le coup de pub de l'artiste le plus coté du marché. Allez, on va écouter les réactions de ces Parisiens que j'ai rencontrés juste après l'inauguration.
Faut aimer les couleurs.
Alors moi je trouve ça magnifique, génial, et je trouve ça super d'avoir mis des fleurs comme ça, c'est plein d'espoir. C'est très coloré, une main très réaliste et en même temps des fleurs très pop.
Non mais ça n'a rien à voir que de fleurs, hein. C'est soi-disant des tulipes, mais quand vous regardez, c'est... Enfin excusez-moi, je trouve que c'est pas esthétique.
C'est un petit peu incongru là au milieu, mais enfin voilà, c'est gai, c'est joyeux, donc pourquoi pas.
Alors écoutez, bon voilà, ils sont un peu partagés. Écoutez la réponse de Jeff Koons quand on l'accuse d'être d'abord peut-être un businessman.
Je n'ai rien reçu, aucun paiement pour le temps que j'y ai consacré, aucune forme d'argent. Mon équipe n'a rien touché non plus, aucun argent pour notre travail. On s'est consacré à ça pendant 3 ans avec tous les voyages outre-Atlantique et l'œuvre a coûté au final plus cher que ce que nous pensions au départ. J'ai complété avec mon propre argent. And I funded the
rest out of my own money. Alors, c'est vrai que Koons a mis, je crois, 1 million de sa poche.
Hein. Oui, pour l'excédent.
Soyons clairs, alors, le coût pour la municipalité, le coût pour nous,
0.
Vraiment ?
Ah bah oui, j'ai pas le droit de mentir, comme vous savez.
Donc, 3,5 millions d'euros. Ouais,
les mécènes.
Les mécènes, ça, on est d'accord. Les entreprises, les particuliers américains, je crois que ça...
Français, oui, vous avez les grands français.
Bon, ils vont quand même pouvoir bénéficier d'une petite réduction d'impôts.
Mais heureusement, parce que s'il n'y avait pas...
60%
mais non,
quand même,
mais s'il n'y avait pas l'incitation... Mais oui, mais attendez. S'il n'y a pas d'incitation fiscale, il n'y a pas de donateurs et de mécènes, prenons en compte l'argent reçu. On va quand même se réjouir que des entreprises privées, des mécènes, donnent de l'argent pour l'art dans l'espace public.
Ben
et
oui,
que ça
c'est
ne coûte
vrai. Non, mais
rien.
Vrai.
Voilà, il faut qu'on sorte, nous, de cette culture de du gémissement et de la plainte.
Donc pas d'arrière-pensée commerciale non plus.
Mais non, mais Jeff Koons, il n'a pas demandé. C'est l'ambassadrice des États-Unis, Jen Hartley, qui a eu l'idée de demander à Jeff Koons. Il n'y a pas eu un concours où il a concouru. Il a été choisi et il a accepté parce qu'il avait vécu les événements du 11 septembre 2001. Donc il a eu envie d'agir.
Bien sûr, Diane. Bien sûr, mais c'est vrai qu'après, évidemment, il en a quand même les retombées honorifiques, on va dire. Ben, c'est évident, hein, bien sûr. Et puis, je pense que ça doit être une fierté pour un artiste comme Jeff Koons, un Américain, les Américains adorent Paris,
bien
d'être voilà, au cœur de Paris. C'est quand même, voilà, avec cette
œuvre. Bien sûr que c'est magnifique.
Bah oui, pour lui, c'est fantastique.
C'est juste pour lui, mais pour nous aussi. Bien sûr.
Oui. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, c'est près du Petit Palais, vous ferez votre idée, c'est dans les jardins des Champs-Élysées, et vous nous direz ce que vous en pensez. Alors, il y a une autre actualité à Paris ce week-end, Christophe Girard, Diane Chinouda. C'est la nuit blanche, oui. Le rendez-vous à ne pas manquer.
Oui, oui, alors ça, c'est vrai que c'est le rendez-vous. Bah, chaque année, Paris se transforme en boîte de nuit, parfois nocturne comme ça, avec tous les noctambules dans la rue jusqu'à l'aube. C'est vrai que c'est l'occasion de voir des lieux qu'on ne voit pas d'habitude aussi. Et puis évidemment, dans cette ambiance de nuit, donc forcément, il y a un côté un peu magique. Il y a énormément de lieux cette année. Alors, vous avez mis les bouchées doubles, hein, on a le sentiment
oui,
quand même.
Parce que nuit blanche, oui. D'abord à 18 ans, donc c'est la majorité et la maturité.
Ah.
Donc,
d'accord.
Elle est dorénavant métropolitaine,
ouais,
c'est-à-dire ouais, que c'est avec la métropole du Grand Paris, mmh, avec des villes tout autour. Mmh. On efface le périphérique, le fameux vélodrome, avec des tenues et des choses assez extraordinaires, et des lumières, des jeux de lumière. Et puis, il y a la grande parade,
ouais,
qu'a voulu Didier Fusilier et Jean-Max Collard, les directeurs artistiques, qui partira de la place de la Concorde à contre-courant de la rue de Rivoli, pour remonter jusqu'à la Bastille.
Alors, c'est la 18e Nuit Blanche, 200 projets artistiques à peu près, hein, on l'a dit, Christophe Girard. Mais il y a un truc, moi, qui m'a, je sais pas, qui m'a frappé, c'est évidemment le vélodrome. C'est faire du vélo sur le périph. Un vieux rêve parisien, sans doute, pour certains. Mais franchement, c'est la vocation. C'est la vocation du périph, honnêtement.
Alors, le périphérique fait l'objet de beaucoup de débats,
bah, oui,
chez beaucoup de femmes et d'hommes politiques,
et d'autant
candidats.
Plus,
Et le périphérique, voilà, bien évidemment, il est prévu qu'un jour il disparaisse. Là, c'est l'occasion, en allant sur cet espace-là, mmh, derrière la Philharmonie, derrière le parc de la Villette, de pouvoir admirer à la fois Pantin et Paris, le Sacré-Cœur, dans la nuit, parce que c'est la partie du périphérique qui est le plus haut perché. Venez!
Oui,
mais comme c'est un peu, faites-vous une idée par vous-même.
Oui, mais c'est un peu un test grandeur nature, vous le dites en fait, en quelque sorte. Hein. Évidemment, dans cette année d'élection municipale, le périph, il est un enjeu, un véritable enjeu, la vitesse sur le périph,
etc. Mais on l'avait prévu avant.
Vous l'aviez prévu avant, d'accord.
Oui, c'est une vieille idée quand même.
Donc cette autoroute urbaine qu'il fait bon fréquenter, le paysage vaut le coup. Vous nous dites, c'est pas ridicule d'aller se promener sur le périph.
C'est vraiment pas ridicule parce que vous soyez en famille, que vous soyez en groupe, avec
les taxis,
des amis.
Les taxis, les trajets professionnels, pour
d'abord,
se rendre
j'incite
tout ça.
Et je profite d'Europe 1, qui est une très
les
bonne
départs
radio.
Les week-end des Parisiens.
Pour dire qu'aujourd'hui, et pour Nuit Blanche, surtout, prenez vos jambes, prenez les taxis, prenez les transports en commun, mais oubliez votre automobile. C'est une nuit pour les piétons, les promeneurs et les noctambules.
Oui, non, mais ça c'est certain que c'est l'occasion quand même effectivement de laisser sa voiture au garage quand
mais
même.
Bien
oui,
sûr,
oui, ça, c'est
et profiter de la vie.
Je crois que c'est complet quand même pour le marathon, il faut le dire, non ? Il me
on
semble.
Peut y aller.
On peut y aller ?
Il faudra faire un peu la queue.
Ah, parce qu'il y a un marathon qui va traverser une quarantaine de musées, y compris
oui,
le Louvre.
C'est ça,
le Louvre,
deux
ouais,
courses nocturnes de 10 km.
Le Théâtre du Châtelet, bien
exactement,
sûr.
Exactement, le Louvre, Guimet, le voilà, Musique PSO, le Centre Pompidou.
Mais pourquoi Nathalie Lévy ? Parce que il y a les Jeux Olympiques de 2024 qu'Anne Hidalgo a rapporté à Paris. Et dont on prépare un petit peu, si vous voulez, l'Olympiade culturelle. Donc Didier Fusilier, Jean-Max Collard ont eu l'idée de mettre le sport avec la Fédération de l'athlétisme dans la boucle de la programmation. C'est une nuit blanche comme jamais il n'y en a eu. Et c'est la première d'une nouvelle série, à mon avis.
Bon, en tout cas, c'est la 18e Nuit Blanche, donc à vivre ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Merci beaucoup, Christophe Girard, d'être
fini, déjà
passé par Europe 1. Ça va vite, mais c'est toujours appréciable.
Oh là,
vous
oh,
revenez quand vous voulez. Bah vous avez oui, votre rond de serviette. Merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Christophe Girard. C'était un plaisir. Diane Chinouda également. On va se retrouver dans une seconde sur Europe 1, votre grand journal du soir qui se poursuit jusqu'à 20h. Votre grand journal se poursuit encore un quart d'heure. On est ensemble jusqu'à 20h. La culture au sens large. Votre rendez-vous du soir est dans la playlist du 18-20. Ce soir, on écoute Étienne Dao et son Week-end à Rome. Allez.
Week-end à Rome. Afin de penser la bulle dans ta bulle. Poser mon cœur dans ton cœur. Escapade à deux, la pluie m'assomme, grimant poisonne, week-end à Rome.
samedi et dimanche, Étienne Dao sera l'invité d'Isabelle Morizet de 15h à 16h pour son émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Nous, on a quasiment le sosie d'Étienne Dao, rédacteur en chef ici à Europe 1. Je peux vous dire que c'est incroyable. En attendant, allez, c'est notre tour de table du vendredi soir. On parle plaisir du ventre et de l'esprit. Bah oui, Marion Sauveur et Thierry Geoffretin, bonsoir à tous les deux. Bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Du goût et de la musique ce soir avec vous deux. Thierry, on va prendre la direction d'abord du Stade de France pour commencer avec un événement musical exceptionnel.
Oui, exceptionnel en effet. Avant de vous en parler, quelques mesures de l'œuvre qui sera donnée au Stade de France. Oui.
Évidemment, Carmen de Bizet, composée en 1875.
Ah, mais dis donc,
comptez bon.
La classe, oui, Carmen, l'opéra le plus joué au monde, qui sera donc donné au Stade de France avec notamment Roberto Alagna. Ah.
C'est le lieu parfait si on veut avoir beaucoup de monde et se faire plaisir avec les gens qu'on aime.
Ça change quoi, justement, de chanter dans une maison d'opéra et de chanter dans un stade?
On s'aperçoit que vraiment, la musique a été créée pour toucher la multitude. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... On ne peut pas enfermer la musique.
Ici, vous êtes quasiment chez vous, hein?
Oui, oui, là, je suis du quartier. Voilà, moi, je suis né à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et voilà, et on est ici. Donc, je trouve formidable. Si on m'avait dit un jour, tu sais, tu chanteras dans un stade, dans ta banlieue, avec 60 000 personnes, je crois que j'aurais eu du mal à y croire.
Alors, une sorte de retour à la maison, dit-il, Roberto Alagna. Mais il est quand même, Thierry, on ne va pas se mentir, il est quand même plus habitué aux salles traditionnelles. L'Opéra Garnier, Bastille, il a accepté, là, facilement.
Il a accepté parce que Roberto Alagna est l'artiste de tous les défis. Hein. Mmh. Chanter Carmen devant 60 000 personnes, avec évidemment une sonorisation, hein. 60 000 personnes, vous vous rendez compte. C'est ce qu'espèrent les organisateurs. Vous imaginez la poussée d'adrénaline pour les artistes. Alors, aux côtés de Roberto Alagna en Don José, Béatrice Uria Monson dans le rôle de Carmen, Alexandra Kurchak, l'épouse de Roberto Alagna en Micaela, l'Orchestre National d'Île-de-France, 200 artistes sur scène, le tout emmené par le metteur en scène Charles Roubaud.
Pour ce public-là, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut leur faire un show, il faut leur donner du spectacle. En sachant que le drame va rester, puisque c'est un drame, je vais dégager le côté festif, le côté un peu comédie musicale qu'il y a dans la musique de Carmen, pour faire un spectacle très chorégraphié quand même, qui finira mal évidemment, mais qui sera quand même très animé, qui sera comme un show, il faut leur donner un spectacle en fait, pour qu'ils sortent avec des souvenirs pleins les yeux.
Alors, un rendez-vous à ne pas manquer, la dernière fois c'était en 2003, ça commence à dater. Comment ça va se passer, Carmen, au Stade de France cette fois, Thierry, quand, comment?
Ça sera le 19 septembre 2020. Oui, c'est après-demain.
Voilà.
Mais si je vous en parle dès aujourd'hui, c'est que la billetterie ouvre lundi prochain sur le site VIP, vous savez, V2EP2E, VIP. Et une semaine plus tard, le 14, donc sur toutes les autres plateformes. Alors, on nous annonce des tarifs, la moitié de la jauge, c'est-à-dire environ 30 000 places à moins de 60 euros et les premiers tarifs à 29 euros dans un an. Donc, mais le Stade de France travaille déjà d'arrache-pied sur ce projet. Alexandra Boutelier est la directrice générale du Stade de France.
Nous avons aujourd'hui des défis opérationnels qui sont considérables. Donc effectivement, depuis qu'on a décidé de ce projet, j'ai tous les matins, en me levant, la sensation d'avoir une confiance inouïe à honorer. Je connais assez bien mes équipes. Je suis finalement modérément anxieuse.
Voilà Nathalie, vous avez quelques mois pour acheter le billet, mais c'est à voir, je pense.
En tout cas, une large gamme de prix, 9 tarifs différents, c'est génial. Ça permet comme cela à rendre l'opéra accessible à un maximum de bourses. Et ça, c'est une vraie grande initiative. Donc, on est d'accord avec vous, Thierry. On vous suit en courant. En plus, on a de l'avance, donc c'est parfait. Marion Sauveur. Alors, Marion Sauveur, il est pratiquement l'heure de dîner. On a très faim. Et vous allez nous emmener cette semaine dans une nouvelle table qui vraiment vaut le détour.
Écoutez l'ambiance. Ça s'appelle Soupou Ramen, c'est signé le chef 3 étoiles Guy Savoy. Et nous avons d'ailleurs Guy Savoy au téléphone, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci.
Alors ce restaurant, c'est Soupou Ramen et ce n'est pas un restaurant gastronomique, hein. C'est une cantine franco-japonaise avec, comme son nom l'indique, des ramen. Alors les ramen, ce sont des plats à base de nouilles recouvertes de bouillon. C'est un plat qui est très très populaire au Japon. Alors pourquoi avoir ouvert un restaurant, une adresse comme celle-là?
Moi je pense aujourd'hui que le cuisinier peut opérer dans toute forme de restauration. Comme vous dites que c'est de culture japonaise, je crois qu'aujourd'hui, c'est planétaire. Hein, moi, je suis moi-même un fervent consommateur de ramen dans pratiquement dans tous les pays où je passe, parce que ça permet de faire un déjeuner ou un dîner rapide avec une consonance santé, quoi, parce que c'est nous, elles sont dans un bouillon qui, chez nous, est plutôt très maigre, avec,
complètement avec des saveurs. Hein.
Avec des saveurs, bon, mais qui sont aussi bien de poisson avec le maquereau, ou de bœuf, ou de volaille, ou végétarien, et qui a la particularité aussi d'être très, enfin, tous les produits viennent 95% des produits viennent d'Île-de-France.
Et d'ailleurs, on sent que ce sont des produits frais. Hein. Les légumes sont très présents dans ce bol. Hein. C'est pas une assiette, c'est un bol. Il y a un ramen au maquereau, à la volaille, l'autre au bœuf, et même un végétarien sans bouillon d'ailleurs.
Hein. La particularité, parce que c'est bien sûr les puristes ou les académiciens du ramen disent ce ne sont pas des vrais ramen, mais je les ai franchisés,
c'est ça.
Voire franchouillardisés même, vous voyez, donc voilà. Et puis tout le lieu a été totalement créé par Fabrice Hibert, et qui a fait entre autres la verrière du Lutetia, l'une des entrées du Beau Passage, enfin qui a beaucoup.
C'est un endroit magnifique, hein, effectivement, sur les quais de Seine, et les prix d'ailleurs sont vraiment corrects, hein, pour le quartier, puisque
écoutez,
c'est à deux pas.
Proche du prix pour l'opéra, parce qu'à moins de 19 euros, on peut faire un déjeuner ou un dîner. Faites l'opéra au Grand Stade, hein, j'entends.
Merci beaucoup, Guy Savoy. Merci. On va filer dans votre adresse, donc qui vient d'ouvrir. D'ailleurs, il faut rappeler, hein, Marion, que c'est à deux pas de son 3 étoiles, hein, à Guy Savoy. Hein. On est vraiment tout près. Alors avec un univers complètement différent, et vous nous l'avez dit, des prix entre 13
et 18 euros.
Merci beaucoup Marion Sauveur, merci Thierry Geffrotin. On a le programme pour le week-end, on est calé.
Europe 1.
Mais le programme ne serait pas totalement complet si nous n'étions pas en direct avec Émilie Mazoyer pour tout savoir de son émission musicale, n'est-ce pas Émilie?
Salut. Oui, salut, merci Nathalie. Alors ce soir, Légende. Il va faire ses adieux à l'Olympia mardi soir, et il est ce soir dans Musique sur Europe 1 et nulle part ailleurs. C'est Eric Burdon, légende du rock'n'roll, le chanteur des Animals.
Ah oui, quand même.
There is a house in New Orleans.
Et comme c'est une rockstar, il sera pas là à 20h30, lui il sera là à 21h parce qu'il est un peu jet lag.
C'est ça.
Il
a le droit.
Sera là tout à l'heure.
Merci beaucoup Émilie Mazoyer, on sera nous aussi au rendez-vous. Merci à tous, très belle soirée et très bon week-end à l'écoute d'Europe 1. Dans quelques instants c'est le journal bien entendu. On vous dit à lundi, 18h-20h pour votre grand journal du soir.